Bon midi, bienvenue à l'émission On en jase, il est midi une minute. Merci à Max Larouche pour son point de Max avec Sam Tremblay, Michou en direct du Salon de l'Auto. Ce sera ça pour le reste de la semaine, de 10h à midi. Vous voulez entendre parler de voiture, vous voulez entendre parler d'actualité. La meilleure émission, c'est le point de Max, Sam Tremblay, Michou et sans l'ombre d'un doute, le meilleur chroniqueur automobile. Donc vous avez un 2 pour 1 parfait. Après nous, dans En jase, évidemment, ce sera le retour de Gravel. Pour cette semaine, Denis est en vacances. C'est avec Antonine Iaccarini, Véronique Bergeron et également Audrey Pinchot. Antonine Iaccarini, que je vois devant moi, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Je tiens à te féliciter pour ton excellent travail hier dans le retour.
Merci.
Pour les bouts que j'ai écoutés.
Non, c'est vrai. Plaisir. C'est juste du plaisir.
Excellent, excellent micro sur Love is Blind. Je connaissais pas cette émission-là.
Bon, écoute.
Tu parles de des énergumènes, oui.
Bon, premièrement, je tiens à dire que ça me sort de ma zone de confort de faire, disons, des interventions sur des téléréalités dans d'autres émissions. Mais évidemment, je n'aime pas que la politique dans la vie. Donc, ça me fait plaisir. Ça me change le mal de place, comme on dit. Et Love is Blind, je suis très surprise que tu n'aies jamais écouté ça. C'est quand même la 10e saison, Jeff.
Ben, exactement. Ben, ce qu'il faut comprendre, dans ma vie personnelle, j'ai pris énormément de retard sur ce genre de série-là. J'ai recommencé à écouter des séries cette année quand on s'est installé Val et moi dans notre maison. Et là, ben, on dirait que quand je vois une série qu'on est rendu à 9e saison.
Ah, tu dis c'est trop tard.
Exactement.
J'ai manqué le
bateau. Fait que là, j'en
pogne des nouvelles. Mais c'est le genre de série que tu peux prendre n'importe quelle saison.
Ben, c'est
ça
ce que
ne
j'ai...
se suit pas.
C'est ce que j'ai compris hier avec le micro d'Anto que je me dis je pourrais écouter la 10e pour. Comment il s'appelle là, le personnage, l'énergumène, là, que
Chris.
La médecin est pas assez belle pour lui.
Chris, c'est le gars qui dit que sa fiancée ne fait pas assez de sport.
Ouais,
mais il y a
ça.
Aussi Alex.
Ouais, qui a une vie qu'on ne comprend pas trop
on
comment il a fait.
On ne comprend pas trop. Donc, oui, tu peux écouter ça, mais t'sais, honnêtement, c'est le genre de télé-réalité où tu mets ton cerveau à off. J'ai quand même des recommandations plus intelligentes si jamais tu veux plus te cultiver.
Non,
mais avec tout ce qui se passe, là, ça fait du bien. Puis moi, j'en avais parlé à Max dans ma chronique de ce fameux... gars qui dit à une médecin hyper brillante, qui est en forme en passant, là,
ben
qui est physiquement en forme, qu'habituellement, il y a mieux les filles qui font du pilates 24 heures sur 24, juste pour dire « Hey, sérieux? » On est rendu là, mais au-delà de ça, c'est les commentaires. Les commentaires qui prenaient la défense de la fille, ils me faisaient mourir de rire.
Il y a eu plein de mimes aussi. Mais ce gars-là, en passant, la conséquence de tout ça, je vois pas comment il peut se remettre
en couple.
En termes de réputation.
Et en couple.
Ça va être sûr.
Entièrement raison. Alors, félicitations pour ton beau travail.
Merci.
Aujourd'hui, à l'émission, on va encore une fois parler énormément de cette guerre en Iran. On va en parler notamment avec Barahan Banyamadi, qui est une artiste d'origine libanaise qui a quitté le régime. Elle a dû passer devant les services secrets là-bas. Évidemment, elle a énormément de blessures psychologiques. Elle va nous parler de ça aux alentours de 12h40. Il n'y a pas Pascal CV également, on va en parler avec Rémi Villemeux, qui s'est entretenu avec une journaliste. Et là, Pascal, tu me corriges, je ne dis pas bien le nom, mais c'est Nazila Naroufian. C'est une militante pour les droits civils, c'est une prisonnière politique, c'est une journaliste iranienne. Tu vas nous présenter des extraits de ça avec Rémi Villemeux. On va faire réagir notre ami Rémi là-dessus. Alors, Pascal, on va prendre le côté plus humain aujourd'hui de cette guerre en Iran.
Elle s'appelle Nazila Maroufian. Puis, tu sais, on dit qu'elle est journaliste politique juste parce que, en fait, tout ce qui est cercle islamique le qualifie ainsi, parce qu'elle veut dire des choses qui se passent dans son pays. Mm-hmm. Fait que dans notre pays à nous, elle serait juste une journaliste normale.
Exactement.
Elle devient une journaliste politique à cause de ça. Puis, c'est ça, on a décidé de faire un dossier avec l'un de nos collaborateurs aujourd'hui. Fait que mon dossier, ce sera en compagnie de Rémi.
En plein ça. Donc, c'est le côté plus humain. Et on va parler d'actualité locale, parce qu'il faut toujours en parler et on en parle tout le temps, on en jase, on est branché sur Québec, c'est une émission branchée sur Québec. On va voir les copropriétaires du groupe Maestro, c'est qui ça? L'atelier Ophélia, Mora, Alexandre Grenier, Fabio Monti qui vont venir nous parler des travaux du tramway qui vont leur faire perdre en revenus par semaine. Vous êtes bien assis, madame? 251 000 $.
Aïe, aïe, aïe.
dans une industrie qui souffre énormément.
Exactement.
Et qui le clame depuis longtemps, en plus avec la pandémie qui les a vraiment fait mal, sur le fait qu'ils sont les oubliés du gouvernement.
Mm-hmm.
Dans ces projets-là, puis on a vu ça aux abords des ponts. Nicolas Cortina, entre autres, j'ai suivi ça tout l'automne pour vous. Je faisais des clips, on en jasait, ouais. On en jase, qui ont été impactés par des travaux et qui ont mené à la fin de certains restaurants.
Exactement. Et Alicia Despins, notre chroniqueuse municipale, sera là également. On va parler de Lévis qui a déjà dépensé 52 000 $ en avocat pour se défendre de la poursuite sur le moratoire. Donc, vous n'avez pas fini de payer à Lévis. Je vous le rappelle, 418-971-1001, le numéro pour interagir avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler. Également, blvd.fm, c'est la web radio. C'est les meilleurs moments de l'émission qui s'y retrouvent après l'émission. BLVD 102.1 disponible sur App Store, Google Play Store. Téléchargez immédiatement justement cette application. twitch.tv/blvd/fm pour venir nous voir. Abonnez-vous également à notre page YouTube. Le caucus avec Antonine Iacarini s'y retrouve à chaque jour. Et haut-parleur intelligent, dites écoutez BLVD et c'est ce que vous allez entendre dans vos oreilles. Pascal, en manchette, ça brasse pas à peu près dans le conflit en Iran. Et là, il y a de fortes explosions qui ont été entendu à Doha et à Dubaï.
Je te parle de cette quatrième journée de la guerre au Moyen-Orient. Là, oui, effectivement, on a eu des explosions qui ont été entendues au Qatar, aux Émirats arabes unis. Ça avait fait beaucoup réagir en fin de semaine. On se disait, ben voyons, je comprends que ça peut être des endroits où il y a des bases américaines ou qu'il y a des choses américaines. Mais encore là, c'est aussi un acte de semi-guerre, si on veut, de venir mettre ces pays-là dans la loupe américano-israélienne et iranienne qui s'affrontent en ce moment. C'est pas au même titre que le Liban, par exemple, où il y a l'Hezbollah qui est super présent et qui s'est dit ouvertement prêt à défendre l'Iran. Ce sont des endroits qui hébergent du militaire américain, mais qui n'ont pas ce même genre de coltaillage que l'on voit avec les autres pays. Alors, c'est sûr que c'est énormément pointé du doigt et la guerre fait ses premières victimes. On parle encore des victimes américaines. Donald Trump aussi envisage une opération, vous le savez, sur plusieurs semaines, peut-être même qui dépassera le mois. Chaque camp affiche sa détermination. On veut coûte que coûte, gagner aux façons morales et militaires ce qui est en train de perdurer comme conflit. Et l'économie va venir jouer assurément énormément dans tout cela. Sinon, un petit peu plus localement, au pénitencier de Donnacona, on a appris qu'un meurtrier qui aurait tué un autre détenu. Alors ça, c'est arrivé tout récemment. Altercation qui est arrivée hier soir. Individu qui est maintenant reconnu coupable d'un meurtre commis à Ottawa en 2020 qui aurait causé la mort d'un co-détenu au pénitencier de Donnacona dans Portneuf. Alors ça lui fait pas une belle jambe. Hier, 22h, c'était dans le gymnase de l'établissement qui, je vous rappelle, est à sécurité maximale, où les autorités ont refusé de dévoiler quel type d'arme, s'il y en avait une, qu'est-ce qui a été utilisé dans cette affaire-là. Mais on dit que la victime est âgée dans la vingtaine. Elle a été transportée dans un centre hospitalier pour des blessures graves et son décès a finalement été constaté. On n'a pas beaucoup de nouvelles dans les circonstances exactes qui ont mené à la bagarre. Mais je vous ramène aux entrevues que l'équipe de l'Open Mic fait une semaine sur deux avec un ancien gardien de prison qui sont fort intéressantes. Et la dernière qu'ils ont fait parle un peu de cette violence-là dans les prisons. C'est toujours disponible au blvd.fm. Un Canadien sur 10 se prendrait l'Ozempic et l'intérêt n'est pas prêt de s'estomper. Je vous parlais il y a quelques semaines du fait qu'on est en train de travailler sur des génériques d'Ozempic et ça fait énormément jaser. Ça rendrait le médicament d'autant plus éligible à bien des gens parce que souvent, on va essayer de le prioriser à ceux qui font du diabète. Mais pour la perte de poids, ça devient de plus en plus populaire. Les génériques pourraient faire défoncer ces chiffres-là à travers les prochaines mois, nouveau sondage qui révèle qu'environ 3 millions de Canadiens prennent le populaire médicament ou ses dérivés.
Merci beaucoup, Pascal Sévin. On passe au caucus.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Antonin Iacarini. Ça brasse en Iran, pas à peu près. Là, Donald Trump est en train de recevoir justement le chancelier allemand Frédéric Merz. C'était une rencontre prévue depuis longtemps à la Maison-Blanche. Et là, ça me fait sourire parce qu'on était censé parler de la guerre en Ukraine.
Oui.
Là, il y a le conflit en Iran.
Mm-hmm.
Comment Donald Trump va faire pour dire « je m'implique pas en Ukraine » contre un régime totalitaire qui est la Russie, qui veut prendre du territoire? Mais je m'en vais brasser l'Iran qu'un régime similaire.
D'abord, je mettrais quelques nuances.
Vas-y, t'es là pour ça.
La Russie, je ne qualifierais pas, je dis pas que c'est merveilleux et que c'est un oasis de bonheur démocratique à tous les instants, mais je ne qualifierais pas la Russie de régime totalitaire. Okay. C'est un régime qui est autoritaire, qui est autocratique jusqu'à un certain point.
Hey, fais-moi donc la différence entre totalitaire et autoritaire. J'ai l'impression que je le mélange.
Oui, puis c'est normal. Un régime totalitaire, premièrement, il n'y a pas d'élection. La première des choses. Les élections en Russie, c'est arrangé avec le gars des vues, mais il y a quand même des élections.
Okay.
Les médias russes ont une forte influence du gouvernement, mais ne sont pas directement contrôlés par le gouvernement. Dans
Parfait.
Un régime totalitaire, par exemple, en Corée du Nord ou à l'époque de l'Allemagne nazie, les médias étaient largement contrôlés par le gouvernement lui-même. Il n'y a pas de diversité d'opinion, il n'y a pas de liberté de presse du tout. Dans un régime totalitaire également, il y a un aspect même où le leader devient presque un dieu, là. Okay. Vladimir Poutine est tout puissant. Il a construit, il a rendu de plus en plus autoritaire son régime au fil des ans. Quand on pense, par exemple, après la chute de l'URSS, il y a eu des élections, il y a un premier président démocratiquement élu, Boris Yeltsin. On est passé dans toutes ces années-là, depuis le début des années 90, à un régime qui est retourné vers de l'autoritarisme, beaucoup comme à l'époque de l'URSS, finalement.
Le totalitaire, là, celui qui est à la tête est plus fort que son parti.
Absolument. Puis il y a Parfait. Un culte même de la personnalité dans un régime totalitaire. Je dirais que M. Poutine flirte avec ça, mais en Iran, on parle d'une théocratie. Donc, quand on dit théocratie, ça veut dire que c'est des leaders religieux qui sont à la tête de l'État. Et la religion, dans le cas de l'Iran, est interloquée là, avec tout ce qui est politique. Donc, c'est un peu différent. Mais je pense qu'un régime comme celui en Russie est non démocratique, évidemment, et qui peut faire l'objet de critiques. Et aussi, la différence entre la Russie et l'Iran, c'est que la Russie a attaqué directement un autre État sous des prétextes très, très discutables. Alors que l'Iran, c'est vraiment différent. C'est-à-dire que du côté de l'Iran, on va aller sponsoriser des organisations terroristes dans la région. On s'en prend à Israël. Israël est entouré de pays dans lesquels...
Avec le Hezbollah, entre autres. Là, et on le voit justement dans les attaques qui sont faites, non seulement en Israël, mais sur les bases américaines maintenant qui sont justement qui ont un pied à terre au Moyen-Orient.
Donc, pour répondre à ta question, maintenant que j'ai pris un petit détour d'explication sur les régimes non démocratiques, je te dirais que les différences sont énormes entre l'Ukraine et l'Iran. D'aller se battre contre la Russie qui est en guerre, elle, contre l'Ukraine, c'est très, très différent que d'aller faire des frappes aériennes en Iran conjointement avec Israël, qui est l'allié des États-Unis. On serait vraiment dans une autre situation complètement. Ça serait deux grandes puissances qui se battent l'une contre l'autre.
Qui ont chacune l'arme nucléaire.
Et qui ont chacune l'arme nucléaire. Donc, c'est comme si la guerre froide et la crainte pendant la guerre froide que les grandes puissances finissent par s'affronter directement se concrétiserait. T'sais, à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe dans le monde, on se demande toujours si c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence. Bien, là, ce serait définitivement
la Troisième Guerre mondiale.
Alors qu'en Iran, c'est un régime qui est plus faible. C'est un pays qui est plus faible que la Russie, évidemment, avec des institutions très, très différentes. D'avoir ces attaques conjointes des États-Unis et d'Israël, c'est un pays qui est maintenant déjà très affaibli. Alors que se battre contre la Russie, ce serait une autre paire de manches.
C'est beaucoup ce qui est évoqué parce que, bon, ils définissent l'Iran comme étant un pays de résilience. Fait que des gens qui ont été capables de surmonter des difficultés militaires ou des attaques et des choses comme ça, mais qui ne pourraient pas tenir extrêmement longtemps. Leur seul point de mire là, pour continuer de survivre, c'est attaquer l'économie.
Et autre élément, Jeff, avant qu'on,
oui.
peut-être qu'on passe à un autre angle, c'est que les Américains sont prêts à accepter jusqu'à un certain point, parce que ça fait quand même l'objet de critiques, que les États-Unis participent à des frappes aériennes ciblées dans certains pays. Puis déjà, ça fait débat aux États-Unis. Mais si les États-Unis devaient entrer en guerre contre la Russie, le côté isolationniste des Américains, ça ne passerait jamais politiquement. Puis j'ajoute aussi que Donald Trump, je pense qu'il l'admire jusqu'à un certain point, Vladimir
là.
Poutine. Là.
Donc, à cet effet-là, ça n'arrivera pas. Là, tu touches un point intéressant qui est les Américains, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que hier, on l'a vu, quand on rassemblait trois gros sondages, 43 % des gens étaient contre l'intervention en Iran. 29 % disaient « Bon, ça me fait ni chaud ni froid. » Puis 27 % seulement étaient en accord. Et parmi les réponses qu'on obtenait, bien, les gens disaient « Moi, je suis en désaccord parce que j'ai peur qu'on fasse un Irak 2. J'ai peur qu'on soit dans un Afghanistan 2. »
Un Vietnam 2.
Laissons donc ce qui se passe l'autre bord de l'océan, ceux qui sont l'autre bord de l'océan, puis occupons-nous de l'Amérique. Tout le contraire qu'on a vu lorsqu'on a capturé justement Nicolas Maduro, où les Américains sont en faveur de ce geste-là.
Le peuple américain n'est pas très favorable à ce qu'on fasse des opérations militaires à travers le monde. Ça peut sembler un peu contre-instinctif parce que les États-Unis jouent le rôle de gendarme du monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Par contre, via l'OTAN, ils n'ont pas... seul au monde, comme ils le font à l'heure actuelle.
Ça dépend. Puis l'Irak, c'est un bon exemple. Parce que les États-Unis avaient eu beaucoup de difficultés à convaincre les alliés de
Bien, même le Canada n'est pas allé.
Le Royaume-Uni est allé. Mais bref, on est allé un peu au cas par cas dans ce cas-ci. Puis il faut dire aussi que les Américains sont restés quand même marqués par l'Irak parce qu'on est allé d'abord en guerre sous des faux prétextes. Donc déjà, il faut dire les vraies choses.
Il fallait détruire les armes de destruction massive. Mais il n'y en avait pas.
Et on se souvient Colin Powell, à l'époque, qui était allé là, devant l'ONU et essayer de convaincre tout le monde qu'il y avait des armes de destruction massive. Je me rappelle, il y avait des petits pictogrammes là, où est-ce qu'il nous expliquait. C'est vraiment un petit peu gênant. Et finalement, on n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive. Et surtout, on s'est embourbé dans un conflit qui n'en finissait plus de finir. Puis, la différence entre l'Iran et l'Irak aussi, c'est qu'en Irak, le dictateur, Saddam Hussein à l'époque, tenait des peuples qui ne s'aimaient pas à l'interne. Okay? Donc, il y avait déjà beaucoup de tensions à l'intérieur même du pays et il y avait une dictature très, très dure en Irak, mais qui tenait tous ces gens-là un peu tranquilles. Une fois qu'on a retiré Saddam Hussein de là, tout a pété.
C'est ça.
Et c'est ce qui s'est passé dans les années subséquentes. Et on se retrouvait avec non seulement de la guerre civile en Irak, tout le monde se battait les uns contre les autres, mais aussi avec une vague de terrorisme et une forme de guerre face à laquelle les armées ont beaucoup plus de difficultés à performer, à être outillées. De la guérilla, du terrorisme, c'est pas comme deux armées là, qui s'affrontent. Évidemment, l'armée américaine est hyper puissante et c'est là que les services secrets deviennent hyper importants. Et je fais le lien avec l'Iran. C'est un peu la même chose, la même situation. C'est qu'éventuellement, si on veut vraiment établir un changement durable en Iran, c'est beaucoup aussi les services secrets qui vont jouer un rôle important, beaucoup plus que l'armée éventuellement. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'intelligence sur le terrain, d'être capable d'être à même de mettre des bases solides à un nouveau régime. Mais on n'a pas préparé le terrain du tout dans les dernières années à ça. Donc, ça nous semble une opération qui sort un peu de nulle part en Iran. Et même, on entendait Benjamin Netanyahou donner des entrevues. Il s'est fait poser la question, le premier ministre israélien, est-ce que c'est vous qui avez entraîné les États-Unis un petit peu de manière précipitée là, dans ce conflit-là? Et il s'est contenté de faire un grand sourire et de rire un peu par rapport à cette question-là.
Est-ce que c'est un peu un combat inachevé aussi du premier mandat de Donald Trump? Parce que ça avait été des situations très tendues avec l'Iran lors de son premier mandat. Et autre question qu'on a souvent des auditeurs, c'est le pétrole qui fait foi de tout?
Bien, le pétrole fait toujours partie de l'équation. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a vraiment une dynamique d'alliance entre les États-Unis et Israël. Israël, c'est un pays qui est entouré de pays hostiles. Israël peut aussi faire l'objet de reproches sur pourquoi il y a de l'hostilité. Là. On peut débattre de ça pendant très longtemps. Mais le but de l'opération, c'est pour Israël, c'est d'assurer d'affaiblir ses adversaires autour de lui. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut affaiblir le régime iranien qui sponsorise des organisations, des milices qui souhaitent en fait ni plus ni moins que la destruction d'Israël. On ne parle pas là, de vouloir négocier pour des ressources ou prendre un petit bout de territoire. On parle de détruire Israël. Et on veut couper les têtes de serpents, en fait. C'est ça qui se passe en ce moment. Donc, on fait des frappes aussi au Liban pour aller affaiblir le Hezbollah. Donc, les États-Unis... oui, ils vont avoir de l'intérêt pour le commerce international, pour le pétrole, mais on veut aussi aider notre allié à se protéger, à garder un certain contrôle dans la région. C'est un peu compliqué, mais de faire des opérations comme celle-là, économiquement, à court terme, c'est pas très intéressant. Mais c'est vraiment plus un aspect géopolitique dans la région, puis de s'assurer que des États qu'on considère du point de vue de la perspective des États-Unis et Israël comme étant voyous, de les affaiblir.
On est dans le caucus avec Antonine Iaccarini, segment de l'émission On en jase du lundi au jeudi de 12h05 environ, 12h30. On revient en solde canadien, Antonine, parce que j'ai été très surpris ce matin d'apprendre via le Nouvelliste. C'est passé sous le radar. Mm-hmm. Et des fois, les gouvernements essayent de nous en passer une petite vite comme ça.
Oui.
Sous le radar. Que maintenant, les entreprises autochtones sont priorisées dans les contrats du gouvernement canadien. Donc, pour les contrats de 250 000 $ et moins, on va prioriser les entreprises autochtones. J'ai plein de questions là-dessus. Puis la première est vraiment d'ordre économique, dans le sens que si moi, je te dis déjà, « Hey, Antonine, sais-tu, tu n'auras pas beaucoup de compétition parce que c'est juste les entreprises autochtones.
Ouais.
Puis c'est 250 000 le plafond. Il y a des chances que tu me bêtes ça à 249 000 $ même si ça vaut 215 000. Je trouve qu'au niveau économique, de un, c'est pas un bon geste. Je me trompe-tu?
Non, je suis assez d'accord avec toi. Puis il faut dire aussi que c'est pas juste prioriser. OK? Je vais plus loin.
Ouais.
C'est donner une exclusivité aux entreprises autochtones.
Donc, une obligation gouvernementale de faire affaire avec des entreprises autochtones.
Pour les contrats d'approvisionnement de moins de 250 000 $ Je ne comprends pas. On peut prioriser, hein? Puis on peut essayer de faire des partenariats avec des entreprises autochtones, bien sûr. Mais pourquoi aller vers l'exclusivité? J'ai un petit peu de difficulté à comprendre sur le fond des choses. Et maintenant, sur la forme, on a un gouvernement ici qui... Bon, premièrement, le gouvernement Carney est différent du gouvernement Trudeau. On était dans des années là, où on insistait beaucoup sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Mm-hmm. On a des pages très sombres de notre histoire avec nos relations entre le fédéral et les peuples autochtones. On considère qu'il y a une réconciliation fort bien. On veut amener davantage de développement socio-économique chez les Autochtones. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand Mark Carney est arrivé, les priorités ont changé. On était moins dans ces discours-là. Et avec les projets de loi qui ont été adoptés au début du mandat de Carney, il y avait le projet de loi C5 qui vise à accélérer les projets majeurs au Canada. Et les Autochtones se sont sentis, je généralise, mais c'était assez généralisé, se sont sentis bousculés là-dedans, non consultés. Ils se sont dit, OK, personne ne nous a parlé avant, ce projet de loi-là a été adopté à toute vitesse. Ils sont demeurés très fâchés à la suite de l'adoption. Donc, est-ce qu'on est en mode rattrapage au gouvernement fédéral?
Ça ressemble vraiment à ça.
Bien, premièrement, le rattrapage puis le rétropédalage, c'est sûr que c'est pas très efficace comme manière de fonctionner. Mais en plus, quand tu lis l'article dans le journal La Tribune, tu te rends compte que ça fait pas non plus l'affaire tant que ça des entreprises autochtones. Parce qu'ils disent, bien, premièrement, nous, personne nous a consultés. Donc là, tu te fais dire, vous nous consultez pas pour passer votre projet de loi C5. Fait que là, dans ton rétro-pédalage, tu consultes pas non plus. C'est parce qu'il faudrait peut-être
ça
comprendre.
Ça va pas bien, là. C'est mal géré, on s'entend-tu?
Donc, ça va donner toujours le même résultat si vous faites des politiques publiques qui concernent les peuples autochtones sans consulter les Autochtones. Ça me semble logique. Et là, ça fait vraiment une annonce, entre guillemets, je la mets annonce parce qu'on n'a vraiment pas fait d'annonce. Ça a passé un peu sous le radar, comme
oui,
tu dis.
Bien, c'est ça. On a passé une petite vite pour pas que personne s'en rende compte.
Bien, parce que ça allait faire des vagues, évidemment. Et ça fait des vagues des deux côtés. Personne n'est content. Donc, c'est perdant sur toute la ligne. Donc, cette opération-là n'est pas un grand succès.
C'est plate parce qu'il y en a bien des communautés qui sont prêtes à collaborer d'une autre manière que ce qu'on voit souvent de violence, etc., etc. Puis un des meilleurs exemples que j'ai eu dans les dernières années, quand je suis allée au Nunavik, ça vient de sortir la semaine passée, mais tu sais, la nouvelle, moi, je l'avais là, depuis un an, c'est la mine qu'ils veulent développer avec les minéraux les plus importants dans le monde pour développer la technologie. Puis les Russes et les Américains sont super intéressés. Jeff Bezos, il veut la main là-dessus et tout ça. C'est d'une partie de territoire qui est autant gouvernementale qu'Inuit, mais ils savent, les Inuits, que c'est bon pour l'économie canadienne. La seule chose qu'ils demandent, c'est de trouver un compromis pour ne pas trop nuire à la chasse et la pêche, parce que quand il y a des blizzards au Nunavik, ils n'ont pas de livraison. Ça veut dire que ça peut faire en sorte de créer une certaine famine. Ils veulent. Ils veulent le faire. Il y a des pourparlers qui sont capables d'être faits. Mais pour ça, il ne faut pas toujours aller dans l'extrême ou dans l'autre. Puis ça, on ne dépeint pas souvent ce genre de relations-là entre le gouvernement puis les communautés autochtones.
Puis c'est des relations qui sont compliquées. Mais il me semble que c'est évident que s'il n'y a pas du tout de consultation, ça ne donnera pas un bon résultat. Exact. Après ça, on peut débattre qu'il y a certains... Tu sais, il y a eu des dossiers dans lesquels les négociations ou les consultations, ça, c'est comme si on ne réussissait jamais à donner satisfaction.
À trouver le terrain d'entente,
mais faut pas
la
tomber dans l'autre.
Il ne
faut pas plus tomber dans l'autre.
Puis on est bon,
nous autres,
avec les syndicats là-dessus aussi.
Exactement. Hey, on termine avec nos dirigeants canadiens. C'est des grands voyageurs, Crème.
Oui, des Globetrotters.
Mark Carney est en Inde. Là, il est rendu en Australie. Bon, où va-t-il aller après? On ne le sait pas. Pierre Poilievre, toi, qui pour la première fois de son histoire comme chef de l'opposition, dit « Ah, ce serait peut-être bon que j'aille en Angleterre puis en Europe. Allô, Pierre Poilievre! »
Mais là, parce que...
Êtes-vous dans le game ou non?
C'est moi ou ça arrive un peu tard?
Ben, ça arrive bien trop tard. Puis là, ben, tu sais, je le sais pourquoi il le fait et tu le sais. Puis on va l'expliquer aux auditeurs, mais les auditeurs le comprennent aussi. On est intelligents, les auditeurs de Boulevard 102.1. Il le fait parce que Mark Carney a gagné des élections en disant « Checkez-moi bien à l'œil. Moi, je vais diversifier l'économie. Moi, je vais faire face à Donald Trump. » Et là, il va avoir d'autres élections. C'est un gouvernement minoritaire. Donc, toc, 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 Pierre Poilievre s'est levé de son lit et a dit « Ouais, faudrait bien que j'aie une crédibilité au niveau international. »
Bien, minimalement, une posture claire en la matière. Parce que là, ça fait un an que Mark Carney est là, à peu près. Ça fait un petit peu plus qu'un an que Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et que tout a changé. Et quand on posait la question, tu sais, on reçoit souvent des députés conservateurs ici. Oui. Ça nous fait plaisir d'avoir leur perspective et de jaser avec eux. Mais j'ai toujours de la difficulté à comprendre, face à la question, mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir? Puis, tu sais, des fois, on
attends,
peut dire...
je vais te dire leur réponse, parce qu'on a reçu... On a reçu Pierre Paulus, on a reçu Gabardi, des gens que je respecte énormément, mais je vais te dire leur réponse. Bien là, on n'est pas encore au pouvoir. Puis, tu sais, oubliez pas, Mark Carney avait promis qu'il gérait Trump. Il gère-tu? Il gère pas?
Bien, c'est bien correct, les lignes politiques, mais c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux que les gens votent pour toi, il faut quand même qu'ils comprennent pourquoi ils votent.
Exactement.
La chair autour de l'os.
Un petit peu de chair autour de l'os.
Mais c'est trop peu trop tard pour bâtir une crédibilité, parce que, je veux dire, il aurait dû bâtir ça et il avait le temps. Puis là, je veux pas trop jouer au stratège politique parce que j'en suis pas un. Toi, t'en as déjà été une. Je vais te poser la question. Quand t'es à 50 % d'un sondage, ton adversaire, c'est Justin Trudeau. Puis quand Justin s'en va en Inde, il se déguise. Ben toi, va en Inde, en homme politique, puis crée des contacts.
Exact.
Installe tout de suite ta crédibilité. Ça fait 3 ans qu'il savait qu'il serait le futur premier ministre.
Tu sais, la question des voyages puis des missions commerciales, c'est sûr que c'est pas le rôle d'un chef de l'opposition de faire ça temps plein. Et M. Poilievre a toujours eu une posture Canada d'abord, très domestique, très locale. Moi, je m'intéresse au portefeuille des Canadiens. Non, non, non. C'est bien correct. C'est juste que depuis un an, l'actualité et les priorités politiques sont toutes dirigées vers l'international. Et sans en faire quelque chose de temps plein, c'était vraiment un éléphant dans la pièce. En fait, c'est l'éléphant qui n'était pas du tout dans la pièce parce que c'était zéro. Et là, M. Poilievre, bon, nous a annoncé un peu plus sa stratégie, lui, ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il faut faire avec les États-Unis. On a eu un petit peu plus de détails, il a donné un discours à Toronto la semaine passée, dans lequel, notamment, on nous dit qu'il faut... Ben, puis d'ailleurs, M. Poilievre est en voyage en ce moment, il a ajouté un petit peu, justement, de chair autour de l'os, nous dit notamment que lui, les minéraux critiques et stratégiques, ce serait presque exclusivement avec des pays alliés. Mm-hmm. Très intéressant, parce que c'est vrai que M. Carney, en ce moment, se tourne vers des pays avec lesquels on a des enjeux. Tu sais, la Chine, c'est un pays avec lequel on a des enjeux. Ingérence étrangère, espionnage. On a eu beaucoup de tensions dans les dernières années avec les deux Michael qui avaient été emprisonnés. Et là, on se tourne vers l'Inde. L'Inde aussi pose certains problèmes.
Oui.
Il y a eu de la criminalité en sol canadien.
Il y a eu de l'ingérence.
Mais en même temps, là, l'Inde, là, ça va être la troisième économie mondiale d'ici 2030.
Ben, c'est 1,5 milliard d'habitants.
Et c'est quand même une démocratie.
C'est ça.
Donc là, définir ensemble c'est quoi un allié, j'ai de la difficulté à dire que l'Inde doit être complètement mise de côté. Est-ce qu'on aimerait mieux faire affaire avec l'Australie, puis l'Angleterre, puis la France, bien sûr?
C'est clair.
Mais est-ce que c'est suffisant pour vraiment diversifier notre économie?
Ben, la réponse est non.
La réponse est non.
Si on veut vraiment diversifier notre économie, malheureusement, ça va passer par la Chine et l'Inde, parce que tu viens de parler des trois puissances économiques. États-Unis, Chine, Inde. Si t'en perds aux États-Unis, et ça, tu vas te tourner vers les deuxièmes et troisièmes.
Puis honnêtement, l'Inde, c'est plus intéressant en termes politique. Économique, la Chine, c'est vraiment un incontournable.
Oui, mais...
Mais l'Inde, c'est une démocratie qui est assez stable. On a une histoire commune quand même avec l'appartenance au Commonwealth. Il y a une proximité historique à défaut d'avoir une proximité qui est géographique. Donc, M. Poiliev développe un peu sa pensée. Ça arrive un peu tard. En même temps, je me dis, il ne peut pas quand même changer toute sa personnalité. Ça ne fait pas partie de lui.
Exactement.
M. Carney, lui, là... Son CV, son parcours, ce qu'il est, son expertise, c'est comme si c'était naturel. Le contexte géopolitique et politique canadien était tout désigné pour avoir un Mark Carney qui arrive, alors que M. Poiliev, c'est plus un politicien de métier, c'est un bagarreur, c'est un très bon chef de l'opposition.
Ouais.
Mais c'est comme s'il avait de la difficulté à finir sa métamorphose pour devenir premier ministrable. Et là, j'ai l'impression qu'on fait ça un peu en urgence. C'est pour ça que je pense qu'on n'ira pas en élection d'ici les prochains mois.
En effet, parce qu'il
n'a aucun
trop...
intérêt.
Ben, c'est ça, il faut trop que Pierre Poiliev tente d'installer cette nouveauté-là. On lui a enlevé là, son image de gars dur, on l'a amené avec sa femme, ses enfants, le gars de famille, petite maison, un petit lopin de terre, on l'a rendu plus people, mais là, il faut le rendre maintenant crédible.
On lui a enlevé ses lunettes.
Oui,
on
exactement.
On le voit souvent en T-shirt. T'sais, il y a comme une transformation d'image.
Oui, Gabardine nous a dit d'ailleurs que c'était une machine
d'entraînement. Absolument.
Jean-Pierre nous dit que Poiliev fait juste se sauver de son caucus.
Ah, ça se peut aussi.
Pascal, tu avais quelque chose en terminant?
C'est un mini clin d'œil par rapport à l'Inde puis ceux qui courtisent en fait le pays en ce moment parce qu'il y a quelque chose aussi intéressant au niveau du choix qu'aura à faire le Canada là-dessus parce que l'Inde a des conflits, entre autres avec le Pakistan, mais aussi avec la Chine. Alors, à un moment, si Mark Carney, c'est normal, travaille sur tous les pans, est-ce qu'il va avoir à choisir entre sa blonde puis sa maîtresse, sa femme puis sa maîtresse? Au niveau économique, moi, je surveille ça de très près.
Mais même avec les États-Unis, faire affaire avec la Chine n'est pas sans conséquence aux États-Unis.
En effet.
Mais étant donné que le jeu d'alliance est un peu en transformation, moi, je dois dire, je donne pas toujours des compliments à M. Carney, à ses défauts aussi, mais je dois dire que d'ouvrir des fenêtres, ouvrir des nouvelles possibilités commerciales, c'est la chose à faire. Après ça, ça ne veut pas dire que tu mets tous tes œufs dans le même panier nécessairement. Mais en ce moment, c'est ce qui est attendu de sa part, puis de livrer des résultats avec des ententes commerciales qui nous permettent de compenser ce qu'on est en train de perdre avec les États-Unis. Et sur Pierre Poiliev, tu sais, je vais faire un clin d'œil à ce que l'auditeur nous a dit sur son caucus. À quelque part, même si c'est tannant de perdre des députés qui font défection, je pense que les conservateurs ont presque avantage à ce que M. Carney aille chercher sa majorité sans élection. Parce que de partir en élection en ce moment, avec les sondages qu'on connaît, M. Carney, ça va très bien, ses sondages présentement. Et avec un Pierre Poiliev qui essaie de compléter sa transformation, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, il a besoin de temps. Je me dis, regarde, là, que les libéraux gagnent Rosemont si M. Boulris s'en va, gagnent Terrebonne quand l'élection partielle va être déclenchée. Puis si ça me permet de perdre la possibilité que le gouvernement tombe à tout moment, peut-être finalement que ça me donne le temps de me réorganiser.
Je suis très d'accord avec toi. Antonine Iaccarini, on t'entend du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à chaque semaine de 12h05 à 12h30. Merci pour ton excellent passage. On t'écoute dans le retour avec Véro et Audrey.
Yes.
Après cette courte pause à Boulevard 101, on va faire trois choses différentes. Premièrement, on va faire un bloc de nouvelles complet. On va parler avec l'artiste d'origine libanaise qui a quitté le régime en Iran, Bahram Banyamadi, et on va également parler avec les copropriétaires du groupe Maestro qui possèdent les restaurants L'Atelier Ophélia et Mora, c'est-à-dire Alexandre Grenier et Fabio Monti, concernant les travaux du tramway qui pourraient leur faire perdre jusqu'à 251 000 $ en revenus par semaine. C'est ce qui vous attend dans un instant à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Émission On en jase, ton rendez-vous d'actualité du midi, c'est sur les ondes de Boulevard 102.1. On parle évidemment beaucoup du conflit en Iran ces temps-ci, mais on n'oublie pas vos nouvelles locales. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu plus tard dans l'émission des travaux du tramway de ce 52 000 $ dépensés par l'administration à Lévis des gens frais d'avocat pour ce qui est de sa défense contre le moratoire. Très belle journée aujourd'hui, c'est moins 1 degré. Cet après-midi, au thermomètre, seulement 20 % de précipitations. Demain, 3 degrés, 30 % de précipitations. Et ce sera moins 7 pour jeudi et moins 3 pour vendredi. Pascal, en circulation?
Oui, deux petites choses à signaler. En fait, c'est sur Félix Leclerc-Ouest à la hauteur de l'avenue Saint-David. Il y a des débris dans la voie et même dans les voies parce que c'est des morceaux de carton. Alors, ça se promène. Soyez prudents. Je vous rappelle, c'est à la hauteur de l'avenue Saint-David, Félix Leclerc-Ouest. Sinon, ce que je peux signaler également, c'est sur Robert Clich Sud à la hauteur de l'autoroute 20, la voie de gauche qui est partiellement entravée. Il y a une panne à ce moment-là qui a créé un ralentissement. Et bon, la SQ est sur place, donc ça devrait se résorber en termes d'événements dans les prochaines minutes. Mais faites attention, le ralentissement peut surprendre.
Pascal, qu'est-ce qu'on doit suivre absolument dans l'actualité aujourd'hui?
Oui, quatrième journée de la guerre au Moyen-Orient. C'est de fortes explosions entendues au Qatar et aux Émirats arabes unis. On se questionnait à savoir pourquoi les Émirats arabes unis avaient été touchés il y a quelques jours. On croyait que ça allait être une fois et non. On continue l'offensive du côté de l'Iran. Ce qu'on comprend, c'est qu'on veut aller chercher à affaiblir tout ce qui est américain un peu partout. Et on fait des alertes comme quoi, en passant, on ne vous attaque pas vous, on attaque vraiment les Américains là où ils se trouvent. Ça amène une escalade des conflits assurément. L'offensive américano-israélienne aussi qui est destinée à décapiter la République islamique. Conflit qui s'étend désormais au Liban. Israël aussi qui mène des frappes pour aller détruire les Hezbollah sur le territoire. Travaux du tramway. Alors, on revient ici. On parlait de pertes importantes pour les restaurateurs de la Grande Allée. Il y a quelques semaines, on apprenait que la Grande Allée sera non piétonne, comme on y connaît habituellement, parce que René Lévesque sera fermé dans certains segments pendant, entre autres, le Festival d'été de Québec, ce qui fait en sorte que l'artère ne pourra pas accueillir des terrasses supplémentaires pendant la saison estivale du côté de la Grande Allée. Et ça plombe les revenus des commerçants. Nouveaux restaurants qui viennent d'ouvrir. C'est la belle saison pour eux. Ça concrétise de graves problèmes pour les restaurateurs. Et un peu plus tard, justement, on reçoit des influents du groupe Maestro, soit les copropriétaires.
Oui, et ce qu'on avait su des travaux de la ville, c'est que les camions et les autobus passeraient à partir de Clairefontaine, donc à la hauteur du Grand Théâtre. Donc, la portion Grande Allée qui donne vers les plaines d'Abraham serait dissous des travaux. Mais là, on apprend que ça va être à deux voies de chaque côté. Donc, ça va rétrécir carrément les terrasses d'été pour ces commerçants-là. Alors, très hâte de parler tout à l'heure avec Alexandre Grenier et Fabio Monti aux alentours de 12h50.
Ils évaluent là, un impact financier d'environ 160 $ par place assise par jour. Et c'est un groupe de restaurateurs qui est principalement, sinon seulement, actuellement, sur la Grande Allée. Alors voilà que ça peut coûter cher. Moratoire sur la construction, c'est 52 000 $ en frais d'avocat pour Lévis. On en jasait. Alors, la ville de Lévis qui doit préparer sa défense. On a des poursuites de promoteurs immobiliers et on en a une bonne pile. Pourquoi? Ben parce que c'était dans la foulée de l'imposition d'un moratoire sur la construction. Alors, on revient en 2024 et ça crée des problématiques. Sur quoi? Les services de deux firmes d'avocats ont été demandés et c'est l'administration Blainé, donc le nouveau maire de Lévis, qui réclame et un total de 52 000 $ c'est le montant réclamé. Si je vous le dis exactement, 52 233 $ ouais. La ville est accompagnée justement pour essayer de régler ces problématiques-là. La ville de Lévis qui a suspendu l'émission de nouveaux permis de bâtir sur les deux tiers de son territoire, surtout dans le secteur de Saint-Nicolas et l'arrondissement Desjardins, pour un manque de capacité à traiter les eaux usées. Alors, on n'a pas pensé à ça avant. Pénitencier de Donnacona, je dois vous rapporter qu'il y a un meurtrier qui aurait tué un autre détenu au courant de la nuit, donc lundi soir à aujourd'hui. Ça serait produit vers 22 heures, mais ça s'est extensionné. Dans un gymnase de l'établissement de sécurité maximale, il y avait les autorités, oui, qui étaient à tenter de nous donner de l'information, mais on a quand même retenu beaucoup de choses, entre autres le type d'arme, s'il y en est une, comment ça a été utilisé dans cette affaire-là et tout ça. Ce qu'on sait, c'est qu'un individu reconnu coupable d'un meurtre commis à Ottawa en 2020 qui aurait causé la mort d'un co-détenu directement au pénitencier de Donnacona pendant une altercation. On a très peu d'autres informations à ce sujet-là. Ozempic, un Canadien sur 10 en prendrait désormais et c'est pas prêt de s'estomper, entre autres avec l'arrivée des génériques. Nouveau sondage qui révèle que c'est 3 millions de Canadiens qui prennent le populaire médicament. Ben c'est le cas. Hein, c'est très populaire. À la base, ça a été monté pour le diabète, mais on y a vu quand même une corrélation efficace avec la perte de poids.
Conflit en Iran. Hier, on a fait le tour des sujets très importants, c'est-à-dire l'intervention militaire en tant que telle avec Éric Ouellette, notre spécialiste militaire. Le coût de l'essence qui va monter. D'ailleurs, ça devrait monter de 6 cents le litre cette nuit à minuit. Donc, si vous avez à aller mettre d'essence, allez-y immédiatement. On a fait ce tour-là avec Gabriel Giguère et la politique américaine avec Luc Laliberté. Aujourd'hui, on prend un volet plus humain et la prochaine entrevue en sera le cas. On a le bonheur de s'entretenir avec Mme Banaran Banyamadi, qui est une artiste d'origine libanaise qui a quitté le régime avec de lourdes séquelles psychologiques. Mme Banyamadi, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous à l'émission Langeas.
Bonjour et merci pour votre invitation. Je vais juste corriger, je suis d'origine iranienne.
Ah, iranienne, pardonnez-moi, j'ai mal lu dans les médias, je suis vraiment désolé. Donc, d'origine iranienne, Mme Banyamadi, vous dites avoir plusieurs séquelles psychologiques. Quelles sont-elles et pourquoi?
Honnêtement, moi, personnellement, je suis en train de collapser psychologiquement et je vois que même le peuple iranien diaspora et même à l'intérieur du pays, on est vraiment comme collapsé, on est en train de collapser et je ne sais pas quoi dire, il y a plein d'émotions comme la joie, la tristesse, l'inquiétude et tout ça. Et je ne sais pas vraiment aller plus loin que ça parce que c'est un complexe. Et en tant qu'occidentaux, peut-être vous ne pouvez jamais comprendre la situation parce que vous n'avez jamais vécu cette complexe-là.
Mm-hmm. Ouais, expliquez-nous vraiment ce que vous vivez en tant que personne iranienne dans le pays de l'Iran.
Et quand j'étais en Iran, vous voulez dire? Quand j'étais en Iran, en tant qu'actrice, il y avait beaucoup de pression, beaucoup de censure. Ma vie là-bas a été gâchée, en fait. J'ai jamais, et quand je vois les jeunes ici, je pense que j'ai jamais eu la jeunesse là-bas. Et même, je peux dire, malheureusement, et j'ai quitté mon pays, j'ai immigré, ça fait 7 ans. Et même ici, ma vie est gâchée parce que mon cœur est toujours là. Parce que pendant des jours, je ne peux rien faire. Et je peux juste suivre la nouvelle. Et je m'inquiète, je n'ai pas de nouvelles de ma famille. Dans tous les cas, ma vie est gâchée, on dirait.
Pas de nouvelles de votre famille, pas de nouvelles de vos amis non plus. On sent que vous le dites, ça se fragmente en Iran en ce moment. Croyez-vous, comme Donald Trump l'a dit, que ça va mener le peuple à se révolter et à prendre un certain pouvoir plus démocratique pour la suite, ou vous pensez qu'on va continuer dans la violence et que les gens ne pourront pas aller plus loin dans cette révolte-là?
Écoutez, moi, je peux juste espérer, je peux rien faire, je peux espérer qu'après tout ça, après 47 ans que ce régime a détruit notre pays, et maintenant, après cette guerre ou l'intervention ou je sais pas comment nommer, je peux juste espérer que oui, au moins le régime tombe et nous on peut avoir notre démocratie, notre vie normale comme les autres.
Comme femme là-bas en Iran et comme jeune fille aussi, de quelle façon vous avez été opprimée dans vos droits?
Écoutez, ça commence par les vêtements. Il y a des codes pour tout le monde, surtout pour les femmes. Et si tu ne respectes pas, c'est fini pour toi. Comme on a vu Mahsa Amini pour mal déplacer son hijab. Mais ça ne finit pas juste ici.
Vous êtes exécuté, autrement dit?
Exécuté, non, pour le hijab. Mais elle a été tuée autrement comme... repressé, je peux dire, mais ça finit pas juste pour les vêtements, ça finit comme en tant qu'une petite fille, tu peux être mariée, un mariage forcé, bien sûr, c'est pas un enfant, il ne peut pas décider. Et au niveau de droit, au niveau de droit de divorce, de même sortir du pays, t'as pas droit de sortir sans l'autorisation de soit ton père, soit ton mari. C'est énorme. Je peux raconter jusqu'à demain matin.
Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la manière dont certaines familles ou individus tentent d'inculquer d'autres choses à leurs propres enfants malgré ce régime-là qui est très contraignant. Dans les chaumières, est-ce que les parents encouragent leurs enfants à une certaine révolte ou à ne pas prendre ce qu'on leur impose pour acquis, qu'il y a autre chose ailleurs?
Mais écoutez, il y a 2 mois, vous êtes au courant, j'imagine qu'il y avait une grande, des millions de personnes dans la rue des jeunes, parce que la population iranienne, quand même jeune, ils étaient dans la rue et leurs parents les encourageaient pour aller dehors, pour manifester. Et je peux dire justement pourquoi un peuple est courageux comme ça, parce que les parents, l'ancienne génération, je peux dire, ils savent maintenant qu'ils ont fait une erreur il y a 47 ans. Et ils encouragent leurs enfants de soit courageux et ne pas répéter leurs fautes.
Pour rappel, on parle avec Mme Bahram Banihmadi. C'est une artiste d'origine iranienne qui a quitté le régime. Mme Banihmadi, vous le dites, maintenant on encourage les gens à aller dans la rue. C'est à quel pourcentage, selon vous, des gens qui continuent à encourager le régime Khamenei?
Écoutez, pour le moment, c'est pas vraiment, encourager à aller dehors, parce que c'est une guerre quand même maintenant. Et justement, maintenant, c'est le temps de rester à la maison. Mais je peux dire, il y a quelques justes jours que même malgré le massacre et tout ça, ils étaient dehors. Et je peux dire, je ne peux pas vraiment dire un nom, mais selon ce que je vois, je peux dire plus que 80% sont contre le régime. Et même, je peux dire, entre 20%, il y en a des gens qui ont peur, il y a des gens qui ont des intérêts. Et il y a vraiment un petit pourcentage qui sont avec le régime et ils sont en train de servir le régime, en fait.
D'accord. Pensez-vous, si je vous demandais sur une échelle de 1 à 10, quel est votre degré de positivisme que ce qui se passe présentement en Iran va donner dans un horizon d'à peu près 10 à 15 ans un régime démocratique à votre pays d'origine?
Oh, c'est une question vraiment très difficile, surtout maintenant. Mais je peux vous répondre comme ça. Avec le régime, notre espoir était 0%. Mm-hmm. Maintenant, malgré la guerre, ça a augmenté à 5%, 10%, ça dépend des gens. Par exemple, moi, je suis un peu toujours optimiste, mais il y en a des gens... Pardon, je suis pessimiste, mais il y en a des gens beaucoup plus optimistes que moi et sont énormes. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je peux vous dire 2 ou 5% est mieux que rien, j'imagine. Mais en revenant à votre question, pendant d'ici 10 ans, 15 ans, je suis très optimiste.
Très optimiste. Madame Banihmadi, merci infiniment de nous avoir parlé aujourd'hui. Vous êtes une artiste d'origine iranienne qui a quitté le régime. On est avec votre peuple pour qu'enfin la démocratie puisse apparaître dans votre pays. Bravo d'avoir bravé ce régime et félicitations d'être aussi en paix avec vous-même à l'heure actuelle.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler à l'émission. On en jase. C'était Mme Bahram Banihmadi qui a justement vécu sous l'enfer du régime iranien. Mariage forcé, obligé de s'habiller de telle façon, sinon on va te faire... on va aller jusqu'à te tuer, tout simplement. Quel régime épouvantable, Pascal.
Je trouve qu'on voit vraiment le contraste entre cette intervenante-là qu'on vient d'avoir, qui nous a livré un témoignage absolument poignant, et celui que je vais te faire entendre un peu plus tard d'une jeune fille qui, elle, est vraiment contre le régime et tente d'aller plus loin. Donc, d'écrire là-dessus, puis publier, puis tout ça. Puis elle a vécu toutes les sévices dont on vient de parler. Puis pour Mme Banihmadi, elle parle beaucoup des blessures psychologiques. Hein? Elle ne sait même pas sa famille. Elle va comment? Elle ne sait pas comment ses amis vont aussi. Tout est coupé au niveau des canaux de communication. Fait que c'est complexe, je pense, pour elle d'en jaser aussi, parce qu'elle doit tout le temps se demander, si je parle, est-ce que ma famille, qui est encore en Iran, peut subir des sévices?
En effet.
Puis je la voyais un peu retenir certaines réponses, des fois, quand tu lui posais des questions. c'est probablement ce qui se passe dans sa tête, puis on la comprend, là, puis mm-hmm. peut-être que je parle pour elle à travers mon chapeau, mais c'est le genre de communication qu'on a souvent eue. Toujours dans le conflit, veut pas, l'essence monte, hein, on oui. en parlait, et on commence à le voir dans les stations-service. Entre autres, 76e rue, l'essence qui est passée de 1,38 à 1,56 dans les dernières heures. On voit une montée de prix, on attend une bonne montée à partir de demain. Puis hier, je suis allée au Costco, c'était plein, mesdames et messieurs. Là, ça va être un calcul de vous aviez combien de temps et ça vous coûte combien attendre pendant une heure selon votre salaire. Là, je pense qu'il va y avoir des calculs efficaces à faire comme ça. Sinon, sur la route, incident Robert Clich Sud, hauteur de l'autoroute 20, la voie de gauche qui est bloquée. Il y a une panne, la SQ sur place et le remorquage est en cours.
On en jase.
L'émission d'Angers qui se poursuit, midi 54 minutes précisément. On revient avec nos enjeux locaux. Le tramway qui est en train de se faire, le tramway de Québec. On se le rappelle, Bruno Marchand qui a été élu avec une forte majorité. Mais les travaux du tramway et la communication de ces travaux-là posent énormément ouais. de problèmes. Et Pascal, on a justement quelqu'un qui a les deux pieds dedans des travaux du tramway, puis dans les retombées négatives. Il est avec nous en studio, c'est Alexandre Grenier, copropriétaire du groupe Maestro, qui possède les restaurants L'Atelier, Ophélia et Mora. Alexandre, comment ça va dans les circonstances?
Mais ça va bien, ça ouais. va bien, ça va très bien en fait.
Excellent. J'ai fait un calcul, j'ai lu sur Radio-Canada.
On jase jusqu'à 14h, on en jase.
Erreur, j'avais oublié de mettre un stopper. J'ai lu sur sur Radio-Canada que le week-end, vous perdiez 280 places sur votre terrasse, c'est bien ça?
Mm-hmm, exactement.
180 places la semaine et que ça valait 180 $ par jour, cette place-là.
En fait, chaque place sur nos terrasses valent 160 $ par jour.
OK.
Exactement. Donc, oui, mais il faut quand même remettre les choses en perspective.
Vas-y donc.
On peut pas faire une règle de trois simple pour dire on va perdre. Je l'écoutais tantôt en m'amenant la voiture, puis de dire qu'on va perdre.
Là, t'as dit, oh, Jeff va trop loin.
Ben, 250 000 piastres par semaine, c'est pas la réalité. La réalité, c'est que les gens vont faire des choix, puis on a des solutions qu'on apporte avec la Ville de Québec pour sauver puis récupérer des places de terrasse. De notre côté, dès qu'on a entendu la nouvelle, je vous cacherai pas, ça a été un choc. Ça a été un choc, ça nous a frappé. Néanmoins, on s'est pris le téléphone, on a appelé notre architecte, puis on a dit, bon, on a une idée. On va faire un projet de terrasse à l'arrière de nos restaurants.
Exactement. Quand est-ce que vous avez appris la nouvelle? C'est ce que je me demande. Avez-vous appris via les médias? C'est la ville qui vous l'ont donné?
On l'a appris via la Ville de Québec. Il n'y a pas eu de ça n'a pas coulé dans les médias avant. On a eu une rencontre avec tous les commerçants du secteur Grande Allée, avec la Ville de Québec. Puis je pense qu'ils ont fait le même processus avec toutes les artères commerciales. Ça a coulé au travers des choses, mais la Ville a fait les choses correctement.
Puis là, j'avais compris que les autobus et les camions allaient être détournés à partir de Clairefontaine, donc ils ne passeraient pas devant vos restaurants. Pourquoi alors les terrasses sont raccourcies? C'est parce qu'on va élargir la rue, c'est bien ça?
Bien, il faut comprendre que toute la circulation automobile qui était sur René Lévesque va être redirigée vers Grande Allée, ce qui pose à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage... toute la circulation, tous les gens vont être drainés vers Grande Allée. Fait que pour nous, on voit une occasion d'affaires. L'inconvénient qu'on voit, c'est la diminution de place de terrasse parce que à chaque année, à partir de la mi-juin, la Ville nous autorisait, depuis les 20 dernières années, à extensionner nos terrasses sur le trottoir puis dans la rue lorsqu'elle était piétonne. Cette année, on ne pourra pas faire ça tout le temps. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. On ne peut pas faire ça tout le temps. Donc, parce que la rue va être quatre voies, donc ça va se transformer en boulevard. Donc, ce qui était les espaces de stationnement en ce moment devient une voie circulable et le trottoir, qui normalement était une terrasse en été, va demeurer un trottoir pour garder la sécurité des piétons. Voilà.
C'est particulier, je trouve, de se positionner dans tout ça parce qu'on peut pas être contre la vertu, puis on peut pas être démagogue, puis dire ben, c'est juste pour nuire au restaurateur. Ça se peut pas, c'est pas vrai. Donc, autant un restaurateur qui dit ben, on est en train de nous faire mourir, il y a toujours des nuances là-dedans. La Ville se doit d'aller de l'avant avec son projet, ils ont décidé de le faire. Par contre, ça vient troubler beaucoup, beaucoup le monde de la restauration qui est un peu l'enfant pauvre. Hein. Depuis même la pandémie, on le voit au niveau provincial, municipal, fédéral, vous êtes souvent oubliés. Pourtant, vous faites rouler l'économie et vous donnez beaucoup de postes aussi en immigration à des gens qui veulent travailler. Il y a des lacunes, c'est certain, dans tout ça. C'est sûr que vous comprenez les travaux qu'on a à faire, mais quelles sont les lacunes et quelles solutions on pourrait apporter pour avoir peut-être une meilleure gestion si jamais on vous consulte?
Bien, la première chose, c'est que la Ville doit rester ouverte et souple par rapport à nos demandes.
Est-ce que c'est le cas?
C'est le cas. Nous, dès qu'on a eu notre idée de projet de terrasse à l'arrière de nos restaurants pour récupérer une partie de nos places, on a présenté le projet à Mélissa Coulombe-Leduc, à la Ville de Québec et au cabinet du maire pour avoir l'approbation. Parce qu'il faut comprendre, c'est que pour aménager une terrasse à l'arrière de nos restaurants, chose qu'on a suggérée à la Ville pour récupérer une partie des places, ça prenait une modification au règlement de la Ville parce qu'en ce moment, selon la grille de zonage, c'est impossible d'aménager des terrasses à l'arrière d'un commerce.
Est-ce que la Ville vous a dit « on va dézoner, on va le faire »
C'est plus complexe que ça. Parce que, bon, changer un règlement de zonage, c'est complexe, c'est fastidieux. Il y a de la bureaucratie qui va là-dedans. Donc, la Ville nous a dit, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider avec ça et faire avancer votre projet. La Ville ne peut pas nous faire de faveur nécessairement, en particulier en tant que restaurateur. Donc, ils doivent travailler pour des solutions qui vont plaire à tout le monde. Pour l'instant, la Ville nous dit qu'ils... que ça suit son chemin, que ça va bien aller, puis qui va nous le permettre. On a une autre demande, nous, de notre côté, qui est très, très simple. C'est une demande qui va bénéficier à tous les restaurateurs de Grande Allée. C'est très simple, c'est d'analyser le trafic qu'il va avoir sur Grande Allée, le trafic réel. Parce qu'on s'entend, le trafic à Québec, c'est sur les heures de pointe. À l'extérieur des heures de pointe, c'est beaucoup moindre. Donc, est-ce qu'après analyse, on peut dire... Bon, sur Grande Allée, entre 6h30 le matin puis 9h, c'est impossible, il n'y a pas de terrasse possible. Puis entre 15h30 et 18h, c'est pas possible non plus, il y a trop de trafic. Mais après, est-ce que le trafic va être assez faible pour dire, bien, on vous permet manuellement, à chaque soir, à partir de 18h, d'aménager
parce que toi, t'aurais le staff pour le faire.
Bien, en fait, j'ai besoin de ce staff-là. Ça, c'est un autre enjeu qui est
super
important.
Est-ce qu'on est réceptif à cette demande-là?
Oui, oui. En fait, la Ville est réceptive à toutes nos demandes. Il n'y a pas d'enjeu. La Ville est à l'écoute. Après ça, c'est une question d'intelligence. On va être intelligent là-dedans, nous aussi. Si c'est possible, on va demander à la Ville de Québec d'aller de l'avant. Puis si on voit que le trafic est trop dense, on n'est pas contre non plus de notre côté. Là. On va comprendre l'enjeu. Mais on leur demande d'être souple par rapport à ça. Ne serait-ce que pour le week-end. Le week-end, ce serait très possible, à mon avis, vu la faible trafic dans la Ville de Québec, d'aménager ça.
Tu me disais, on a besoin de ce staff-là. Précise donc, ça m'intéresse.
En fait, le festival d'été, je vous dirais... Si je recule un petit peu, chaque année, à la mi-juin, on engage dans l'ensemble de nos restaurants de 30 à 40 employés pour suffire à la demande pendant le FEC. Le FEC qui est pour nous la meilleure portion de l'année. Le FEC, c'est pratiquement 10 % de notre chiffre d'affaires annuel en 11 jours. C'est incroyable. Mais pour répondre à la demande, on a besoin de ces extensions de terrasses-là pour embaucher en amont, former ces gens-là. Donc, pour nous, le fait d'avoir une extension de terrasse ou une terrasse arrière, ou même les deux, nous permet d'avoir le staff nécessaire pour répondre à la demande lors des grands événements, comme le festival d'été, comme la Saint-Jean-Baptiste, le festival Coué, les ouvertures de terrasse, la fin de semaine de la fête du travail où il y a énormément de monde en ville. Donc, le fait d'avoir ces extensions nous permet d'avoir le personnel. Et si on n'a pas ces permissions-là, pour nous, le grand enjeu va être l'embauche de ces gens-là, mais aussi, il y a une perte d'emploi qui est associée à ça. Il y a des gens qui ne seront pas engagés, qui n'auront pas de travail dans la Ville de Québec. Puis je pense qu'on est un moteur économique important. C'est important de nous supporter là-dedans.
Puis les gens veulent fêter tout ça. Donc, il y a quand même aussi la vision de Québec. Puis l'an passé, il y avait des enjeux avec le RTC. Les patrons avaient de la misère à faire venir leurs employés selon le milieu de travail. Il y en a qui ont développé des services de taxi. Mettons, moi, j'ai la Binerie CV, moi, sur Grande Allée. Puis mes employés n'arrivent pas à prendre un Uber parce que le Uber, par exemple, est plus cher que le chiffre d'affaires qu'ils vont faire ce soir-là en travaillant. Les taxis sont pleins. Le RTC est en grève. Ils n'arrivaient pas à aller travailler. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est... Ben, les patrons, ils disaient, ben, je vais engager mon frère puis il va aller vous chercher ou quoi que ce soit. Ça se peut que ça soit une prise d'eux aussi cet été, ça. La difficulté pour vos employés de se rendre sur le terrain, entre autres, le fait que la Grande Allée ne sera pas piétonne, on voit des bouchons des fois après des shows. Où est-ce qu'on va circuler? Ça vous inquiète-tu?
Bien, il y a plusieurs choses là-dedans. La première, puis c'est le fun que tu en parles justement de l'aspect mobilité des employés, c'est une autre demande qu'on a fait à la Ville de Québec, parce que tu as raison, pour beaucoup d'employés qui finissent tard, qui ont des horaires atypiques, c'est difficile de cadrer dans l'horaire du RTC. Donc, une des demandes qu'on a fait, si nos employés décident de ne plus venir en voiture au centre-ville parce que c'est plus compliqué, c'est plus simple d'y aller en autobus, bien, on s'attend à ce que ces gens-là puissent retourner chez eux le soir à la fin de leur quart de travail en autobus. L'enjeu, c'est qu'en ce moment, au RTC, on a un horaire qui se finit très tôt. Donc, notre demande, c'est de faire, c'est de demander au RTC d'allonger les heures de service, d'ajouter des trajets de transport en fin de soirée, 1h, 2h, 3h du matin, vers plusieurs axes de la Ville de Québec pour que les employés puissent se déplacer adéquatement.
Je termine l'entrevue en te demandant, est-ce que 30 000 $ de compensation par la Ville de Québec, c'est suffisant pour toi cet été?
Idéalement, là, j'aimerais ça ne pas avoir besoin du 30 000 $.
Tu voudrais que ça roule comme d'habitude?
Je voudrais que la Ville de Québec n'ait pas à nous le donner.
J'aime ta réponse.
Néanmoins, comme je le dis souvent, ce qu'on s'attend de la Ville, c'est de la souplesse. Mm-hmm. Donc, cette année, c'est une année test où on va tester notre collaboration avec la Ville de Québec. Puis, si, admettons, ce que je ne crois pas, que les résultats sont en deçà de ce qu'on espère, bien, ce sera de se rasseoir avec la Ville de Québec pour reviser cette compensation-là.
Alexandre Grenier, on se refait une date.
Avec grand plaisir.
D'accord, parce que on aime toujours à Boulevard 102.1, on se dit Boulevard Centre 2.1, donc l'extrême centre. On veut toujours montrer les deux côtés de la médaille. Donc que ça aille bien avec la ville ou que ça aille pas bien, mais j'aurais dû faire le contraire. Que ça aille pas bien, mais surtout si ça va bien, viens nous voir.
J'espère que ça va bien aller, j'en suis confiant.
Je suis convaincu. Alexandre Grenier, copropriétaire du groupe Maestro qui possède les restaurants L'Atelier, Ophélia et Mora. On parlait des travaux du tramway qui vont impacter les commerces sur Grande Allée. Alexandre, merci infiniment pour ta présence avec nous.
Merci à vous deux. Merci.
Ça fait plaisir. Après la pause, Pascal, tu nous présentes un excellent dossier avec Rémi Villemur, c'est-à-dire celui d'une journaliste de nationalité iranienne qui a vécu toutes sortes de difficultés avec le régime.
Nazila Maroufiane, en fait, au-delà des difficultés, c'est une femme qui a été battue et qui a subi beaucoup de sévices, qui est allée même se réfugier en France parce qu'elle fait partie de ceux qui ont juste voulu suivre les dossiers journalistiques de son pays.
Et avec Rémi Villemur, on va également parler de nos écoles. Est-ce que nos écoles sont rendues des centres et des cliniques de thérapie? On parle de ceci avec Rémi Villemur dans un instant à Boulevard 102.1 à l'émission On en jase.
Mécanicien et électricien.
On en jase à Boulevard 102.1. Jeff Fortin et Pascal CV et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
On vous oublie pas Jean de Lévis après l'excellent Rémi Villemur. Ce sera notre chroniqueuse de politique municipale, Alicia Despins. On va justement parler de ce 52 000 $ qui est déjà dépensé en frais d'avocat concernant la poursuite des entrepreneurs en raison du moratoire, poursuite de 30 millions de dollars. 418-971-101, vous êtes énormément à réagir aujourd'hui en cette belle journée de semaine de relâche. Merci d'être là. Fred qui nous dit d'ailleurs que c'est le bordel à la station d'essence du Costco Le Bourgneuf. Le prix de l'essence va monter cette nuit. Si c'est le temps de faire le plein, allez-y, ça presse. Autre façon de nous écouter, BLVD 102.1. C'est évidemment notre application disponible sur App Store et Google Play Store, notre site internet blvd.fm qui est notre web radio et vous retrouvez également les meilleurs moments. Et abonnez-vous à notre page YouTube. Pourquoi? Ben parce qu'on a également des moments privilégiés là, notamment le podcast deuxième série Entrepreneurship avec Joanie Fortin. Le premier épisode avec les gens du groupe Martin s'y retrouve depuis aujourd'hui même.
En circulation sur Félix Leclerc-Ouest à la hauteur avant l'autoroute Robert-Bourassa, il y a une voie droite qui est partiellement entravée, il y a une panne. Et la panne là, sur Robert-Clich-Sud à la hauteur de l'autoroute 20 est en train de se résorber. On termine là, le remorquage, ça a juste ralenti un peu le secteur. Puis oui, tu parlais de l'essence, Costco Le Bourgneuf, c'est là. C'est de ça que je te parlais là, il y a 20 minutes hier.
Oui, exactement.
Je pense que la patience, si quand t'es né, elle a passé à côté de toi, ne va pas là. Parce que sincèrement, quand on dit le temps, c'est de l'argent, ça se peut que si tu travailles une heure de plus au bureau, ça soit plus rentable que d'économiser quelques sous à la borne de
centre. Vraiment, vraiment, vraiment. En manchette, Pascal, avant de parler avec Rémi Villemur.
Oui, quatrième journée de la guerre au Moyen-Orient. Beaucoup d'explosions entendues au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. On est encore là-dedans. Alors, l'offensive américano-israélienne veut totalement décapiter la République islamique. C'est un conflit qui s'étend, vous le savez, le Liban aussi. Israël mène des frappes et des tirs pour le Hezbollah. Alors, c'est un peu des factions qui sont en train de s'affronter, puis ça déborde. Hier, je vous rappelle, Donald Trump n'excluait pas le fait d'envoyer des troupes militaires sur le terrain. Action collective contre le Mont-Saint-Anne. Le tribunal va entériner l'entente de 1,5 million de dollars $100. Alors ça vient de tomber dans les dernières minutes. C'est un pas de plus pour les victimes des arrêts brusques des télécabines du Mont-Sainte-Anne à l'hiver 2020. C'est le juge Jacques Bouchard qui a annoncé qu'il allait entériner intégralement l'entente de $1,5 million qui est intervenue dans le cadre des deux actions collectives intentées contre la station de ski. Donc, c'est une décision en délibérée, mais on a qualifié le règlement d'exceptionnel et on a dit que ça apparaissait d'un excellent règlement bien présenté, avantageux pour les membres. Il y a un détenu qui a été tué à la prison de Donnacona. On a appris ça, un conflit qui a dégénéré en bagarre. On a très peu d'informations, mais ça se serait passé la nuit dernière. On vient de parler avec l'un des copropriétaires du groupe Maestro sur les pertes importantes pour des restaurateurs de la Grande Allée pendant les travaux du tramway, entre autres durant l'été. Si vous voulez reprendre l'entrevue, elle sera disponible sur le blvd.fm. Et moratoire sur la construction, c'est $52 000 en frais d'avocat pour Lévis qui veut se défendre. La ville se prépare. On a des poursuites de promoteurs immobiliers qui se sont accumulées. Et ça, c'était dans l'imposition d'un moratoire sur la construction en novembre 2024. Deux firmes d'avocats qui sont en travail là-dessus. Alors, on a été retenu par l'administration Blenny, pour $52 000.
Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, du lundi au jeudi de 18h à 19h. Les samedis matins, en compagnie de Jacinthe Varel de 8h à 10h. Et chroniqueur dans l'émission On en jase, les mardis et jeudis aux alentours de 13h10, c'est avec nous. Monsieur Villemur, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous deux.
Excellent. Rémi, si t'es encore enseignant, tu seras en congé. T'ennuies-tu ou t'es content d'être dans les médias?
Je suis très content d'être dans les médias. J'ai réalisé mon rêve.
Dit-il avec le grand sourire. Rémi, on fait un petit spécial aujourd'hui. Je vais laisser Pascal présenter justement le dossier qu'elle a préparé pour nous. Parce que quand Pascal m'a parlé de ceci, j'ai dit, je sens que ça va venir chercher un Rémi Villemur. Alors, j'ai dit à Pascal, sais-tu quoi? On fait ce dossier-là avec Rémi Villemur. Pascal, je te laisse le présenter.
J'ai quelques clips, en fait, d'une conversation de Nazila Marouf qui raconte dans une longue entrevue tout ce qu'elle a subi de la part de la police du côté de l'Iran sous le régime islamique que l'on connaît et qui tente à être démantelé en ce moment. Donc, c'est quoi les dessous de tout ça? On parle beaucoup des opérations militaires, on parle de Trump, on parle des attaques, mais le peuple en tant que tel, avant ces attaques-là qui ont été des frappes américaines et israéliennes, qu'est-ce qu'il vivait au quotidien? J'ai adoré, Jeff, quand tu as dit « Hey, c'est une journaliste, en fait, qui veut défendre son peuple. » Oui, donc elle est engagée. C'est une journaliste, celle que tu vas nous présenter, qui fait la part des choses, mais certainement qui a un militantisme pour les droits civils, qui est une prisonnière politique. Mais savez-vous quoi? C'est juste une journaliste. Et c'est ça qui est infernal de voir que dans le régime de l'Iran, avec nos valeurs occidentales, une journaliste devient finalement une militante. Mm-hmm. Elle a fait quoi, Nazila Marouf-Yann, pour être arrêtée? On l'écoute.
Je ne peux pas publier. Je n'ai pas de droit à publier. J'ai écrit qu'ils font quoi avec les femmes qui n'ont pas le hijab, qu'ils, même maintenant, ils ont été arrêtés, ils ont frappé les gens, j'ai écrit sur les prisonniers politiques, sur les gens qui ont été arrêtés par la République islamique. J'ai écrit la vérité.
Donc, Pascal, comme en Russie, on écrit puis on est emprisonné, voire même tué.
Puis elle écrit la vérité. C'est sûr que c'est sa vérité, c'est celle de ceux pour qui elle écrit. Mais ils sont entrés chez elle et c'était assez clair ce qu'ils voulaient faire avec elle et c'était non pas pacifiste.
J'ai ouvert la porte d'entrée de l'appartement et quand j'ai ouvert, j'ai dit plein de gens, plein de les forces de renseignement. Même ils n'ont portaient pas les uniformes de police. On a essayé de fermer la porte, mais ils étaient beaucoup.
Donc, ils ont essayé de résister à l'arrestation. Ils voulaient savoir son cellulaire était où. Mais ils étaient beaucoup, puis ils étaient habillés en civil. Donc, c'est une façon de créer un effet surprise,
oh
assurément.
My God.
Rémi, tu sais, t'entends ça. On n'est pas sans savoir que ça existait et tout ça. Mais les violences que l'on constate chez ces gens-là, je vais vous les faire entendre dans quelques instants. Mais c'est sûr que ça vient de chercher, là, dans un pays occidental comme le nôtre. Toi qui défends la liberté d'expression.
Ben oui, c'est évident. C'est évident. Puis, tu sais, je dis pas que c'est... Comment dire, ça se comprend quand c'est dans d'autres pays que l'Iran, mais j'espère que vous allez être capable de me suivre. L'Iran, c'est un pays, c'est une civilisation. C'est un ancien empire. Les gens sont extrêmement éduqués là-bas. Les gens vont à l'université. On dirait que dans ce contexte-là, il y y a quelque chose de presque qui frappe l'imaginaire. On a du mal à imaginer que les Iraniens ont enduré ça pendant si longtemps, hein, qu'il y avait un régime islamique, qu'il y avait des ayatollahs, des gens complètement arriérés, hein, qui étaient en place depuis 1979 et qui le sont d'ailleurs toujours, là. Reste à voir s'ils vont décarpir. Quand c'est dans des pays, disons, un peu différents, où il y a une moins grande tradition intellectuelle, une moins grande histoire, qui n'a pas eu un passé d'empire et que les gens sont moins scolarisés, on dirait qu'on l'assimile. Donc, c'est pour dire à quel point c'était puissant et ce l'est encore. Hein? J'ai entendu parler, par exemple, parce qu'hier, je me suis aventuré, j'ai dit en ondes un peu partout que le peuple était derrière l'attaque orientée sur l'ayatollah Khamenei. Puis là, on m'a dit, oui, mais tu n'as pas vu les manifestations monstres qu'il y a eu en soutien à l'ayatollah. Ouais, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, voudraient bien qu'il reste. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont senti le besoin de sortir pour ne pas attirer les soupçons. Puis bonne chance pour sortir en ce moment et manifester pour la fin du régime. Les gens ont peur, les gens ont la chienne.
Et avec raison, parce que on va l'écouter expliquer les violences qu'elle a vécues de son arrestation jusqu'à temps qu'on l'amène à quelque part qu'elle ne savait même pas.
Ils m'ont beaucoup frappé. Ils ont cassé les trucs dans mon appartement. Ils m'ont violencé sexuellement. Mais même dans la voiture, ils m'ont frappé parce que j'ai crié. J'ai dit que j'ai pas peur. Je me suis sentie que il y a quelqu'un qui est très, très. Qu'il était très, très à côté de moi. Je savais, j'ai entendu. Et après, puis il m'a touchée. Pendant 5 minutes, j'arrivais pas même à crier. J'étais choquée.
Hey Rémi, violence sexuelle, ben agression sexuelle, on va dire les vrais mots, violence physique, puis j'ai tellement trouvé ton point bon sur l'éducation de ce peuple-là, parce que normalement, si tu veux garder les gens dans cette espèce de ghetto-là, tu coupes les moyens d'éducation. Tu les éduques selon, justement, et ça va souvent selon les rythmes religieux. Et là, c'est pas du tout le cas pour l'Iran. Fait que c'est difficile à expliquer tout ce qui se passe.
Oui, c'est difficile, c'est exactement. C'est difficile à expliquer parce que si on pousse la logique jusqu'au bout, on se demande comment un peuple éduqué a pu tout de même tolérer ça. Parce que là, je me contredis peut-être en disant qu'ils ont vécu sous la terreur, mais il y a aussi un niveau de tolérance. On va pas se mentir, il y a 90 millions d'Iraniens là. Donc si ça fait depuis 1979 que le régime est en place, ben c'est qu'on a toléré le régime. Ça veut dire qu'on a pesé le pour et le contre. Et c'est pour ça que c'est très difficile de se contenter d'analyser les choses de façon binaire, le bon, le mauvais. En ce moment, les Iraniens, qui sont éduqués, qui connaissent leur histoire, qui ont écouté des histoires que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents leur ont racontées, ils sont bien au courant qu'ils ont le choix entre un régime anti-américain et probablement un scénario où les Américains et Israël seraient très impliqués dans l'édification d'un nouveau pouvoir. Et il y a des gens qui ont des raisons de détester Israël, qui bombardent Téhéran en ce moment avec les Américains. Il y a aussi des gens qui se disent, ouais, bon, OK, on va se débarrasser du régime, on verra par la suite. Mais les Américains ont déjà placé le Shah à la fin des années 50, début 60, remplacé un homme qui s'appelait Mossadegh, qui avait nationalisé des compagnies pétrolières. Donc, c'est pas toujours une bonne. Ça finit pas toujours très, très bien quand on installe et qu'on laisse les gens installer du pouvoir autour. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer.
Puis l'ingérence des fois outre-mer, moi je me rappelle, j'ai un ami, c'était soldat du Péri, il est décédé, c'est complètement absurde parce qu'il s'est fait sauter par un kamikaze en Afghanistan. Sa job à lui, c'était d'aller distribuer des radios dans les chaumières aux jeunes filles parce qu'il n'avait plus le droit d'aller à l'école sous le régime taliban. Et il se disait, bien, en distribuant des radios, on va être capable de leur faire l'école à la maison, puis ça va être un peu secret. Donc les talibans ont su ça et ils ont pris en grippe, bien, entre autres, soldat du Péri et son équipe qui les distribuait. Puis j'avais fait avant un reportage là-dessus, puis j'avais tout fait raconter. Et il était rendu mutilé, mais il a survécu. Bon, il est mort parce qu'il a déboulé un escalier il y a quelques années, fait que c'est absolument absurde et triste, mais tout à sa mémoire. Mais ça, c'était une des ingérences positives, tiens, des pays d'ailleurs pour essayer de faire en sorte que l'éducation perdure puis qu'ils puissent avoir justement des jeunes filles qui peuvent, bon, être au courant de ce qui se passe ailleurs. Pour revenir à la journaliste qui a fait et qui a donné une entrevue, elle est exilée en ce moment en France pour une protection et elle parle des prisons. Elle dit pas grand-chose. On voit qu'elle veut pas aller trop loin.
On était beaucoup, on n'avait pas même la place, même dormir là-bas parce qu'il n'y avait pas la place. Parfois, il n'y avait pas la place même par terre.
Pas capable d'aller aux toilettes sans demander la permission. On accorde la permission quand on veut. Pensez pas à de la nourriture, pensez pas à aucun confort. Et parfois, on leur bande les yeux pour toutes les raisons du monde, à n'importe quel moment, comme si c'était finalement un jeu. Et on termine en lui demandant « Pourquoi tu fais ça? » Et on la questionne à un point où on ne lui demande pas une réponse, on lui propose des réponses pour délégitimer le régime islamique. Et ça va sûrement faire réagir Rémi, parce que c'est comme un théâtre, une pièce montée. On la force à faire des aveux forcés, finalement.
Pourquoi tu fais comme ça? C'est les États-Unis qui t'a dit faire comme ça? C'est l'Israël qui t'a payé? C'est l'Europe, la France, l'Angleterre? Ils m'ont fait d'aveux forcés devant de la radio et télévision de la République islamique. Les forces de renseignement, ils sont à derrière la caméra. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'ai commencé à pleurer. Beaucoup.
Rémi, tout à l'heure, on parlait également avec l'artiste d'origine iranienne, Bahram Banyamadi, et elle nous disait en fin d'entrevue, après nous avoir raconté également ce qu'elle a vécu, que d'ici 10-15 ans, elle avait bon espoir que la démocratie s'installe en Iran. Tu parlais tantôt de peuple éduqué. Toi, t'en penses quoi?
Ouais, moi, j'ai des paris un peu glauques là, sur la glace en ce moment avec des gens autour de moi, à savoir si le régime va être en place dans 6 mois. Moi, je pense que le régime des mollahs va conserver le pouvoir. Pas parce que les Iraniens sont moins brillants que les Occidentaux puis qu'ils sont moins démocrates, mais c'est un pays différent, c'est une civilisation très différente. Et je l'ai dit plus tôt, c'est un peuple qui ne veut pas non plus embrasser l'option américaine, l'option occidentale, et l'option israélienne aussi. C'est un peuple qui va choisir probablement une voie de passage entre le régime des Mollahs et une voie un peu plus démocratique. Je rappelle quand même que quand les Mollahs ont pris le pouvoir en 79, un mot d'abord sur ce qu'on avait, l'ayatollah Khamenei, qui n'est pas l'ayatollah Khomeini, mais l'ayatollah Khamenei, qui est mort samedi puis qui était au pouvoir depuis 89, avait dit des femmes qu'elles étaient comme des fleurs, et que c'était pour cette raison-là qu'il fallait les protéger et les conserver du regard de l'homme. Donc, on note quand même...
Donc, ce que notre artiste tout à l'heure nous a raconté, Mme Bayam a dit, de mariage forcé, puis que t'es tué, ils ne supportent pas le hijab comme il faut, c'était pour préserver la femme.
Ben oui, c'est de la botanique, tout simplement. Mais je juste noter aussi une chose, c'est qu'à l'époque, les ayatollahs avaient promis des pratiques démocratiques, avaient promis que le peuple serait entendu, que le peuple aurait des voies d'expression aussi. Donc, c'est comme ça qu'on avait vendu le tout. Ça ne s'est pas vraiment avéré, on s'entend, mais je ne pense pas que les Iraniens, dans 10-15 ans, vont vivre dans une société qui ressemble à la nôtre. Et c'est correct comme ça, en passant. Hein? Faut l'accepter aussi. Par contre, on peut s'indigner. Moi, l'intervention américaine et israélienne, je la justifie non pas au nom de la situation des Iraniens, c'est au peuple de se débrouiller eux-mêmes. Je ne crois pas à l'idée de gendarmes dans le monde. Je veux juste rappeler que les ayatollahs menaçaient l'intégrité territoriale d'Israël et n'étaient pas tout à fait coopératifs dans tout le dossier nucléaire. Donc, c'est là que moi, je justifie l'intervention. C'est au nom de l'intégrité des autres pays. Mm-hmm. Mais je n'irai pas jusqu'à dire aujourd'hui, les Américains ont fait ça pour le bien des Iraniens. On connaît quand même la chanson, là.
Non, en effet, tu as entièrement raison. Pascal, c'est super intéressant, tes extraits. Merci infiniment. C'est très, très, très apprécié.
Merci à ces gens-là qui osent parler aussi, parce que ça en prend, mais voyez-vous à quoi ils s'exposent, puis c'est mm-hmm. inquiétant.
Pour rappel, on est avec Rémi Villemur, excellent animateur au 99.5 Montréal, qui est chroniqueur pour nous également chaque mardi et jeudi aux alentours de 13h10. Rémi, autre sujet qu'on veut aborder, et là, tu as vraiment piqué ma curiosité. On est en pleine semaine de relâche, mais il faut parler d'éducation parce que c'est vraiment important. Notre système d'éducation en arrache à l'heure actuelle. Et tu disais, est-ce que nos écoles se sont transformées en cliniques de thérapie? Et là, j'ai réfléchi et je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de TS dans les écoles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologues. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'employés de soutien maintenant. Donc, explique-moi donc le fond de ta pensée, ça m'intéresse.
Ben, écoute, tu viens de décrire la moitié du phénomène, mais il y a une autre moitié. Ça part d'une lettre ouverte, la meilleure que j'ai lue cette année, en 2026. Là, c'est publié dans le Journal de Montréal hier. Pascal Bourgeois, qui est une chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Puis elle note un phénomène que tous les professeurs ou tous les suppléants, tous les employés du service scolaire ont déjà remarqué. C'est que, bon, d'une part, tu viens de le dire, dans les écoles, c'est rendu qu'il y a des TES, des TES, des thérapeutes, des psychoéducateurs. On a vraiment l'impression d'être dans une espèce de retraite. Tu sais, quand tu t'en vas là, dans une retraite, puis que tu as accès à toutes sortes de spécialistes qui peuvent prendre soin de toi. Moi, pour avoir été prof, j'avais des classes des fois, puis pas juste des classes d'élèves en difficulté, là, des classes tout à fait dites normales. Et j'étais interrompu à chaque 20 minutes par quelqu'un qui cognait à la porte pour venir chercher un élève qui avait un rendez-vous avec tel spécialiste, tel ci, tel ça, tel ci. Ça, c'est la moitié du phénomène qu'elle décrit. Mais elle décrit autre chose, elle va plus loin. Pascale Bourgeois, elle dit, c'est rendu aussi que les écoles, c'est assez rare une journée où il y a juste des cours toute la journée. Ce qui arrive, en fait, dans un calendrier scolaire, c'est que quasiment une fois par semaine, tu as un après-midi au complet qui est bloqué par un organisme qui vient faire de la sensibilisation, la prévention de ci, une formation sur tel sujet, tel autre sujet, tel autre sujet. Et je fais juste le préciser, tout ça part d'une bonne intention. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui rentrent dans la tête de nos jeunes. Mais on peut se demander si ça existe encore un cursus scolaire normal, si l'école ne s'est pas encore fait pour exposer aux élèves la matière, ce qui est contenu dans le programme scolaire, et c'est tout. Et les préventions en ci, les formations en ci, ben ça, on garde ça pour la maison, c'est-à-dire c'est aux parents de s'occuper de prévention et de sensibilisation, un peu à l'école, dans le cadre de la semaine de ci, la semaine de ça. Mais c'est pas normal que l'élève, quand il arrive à l'école, il y a son horaire des cours, mais aussi la possibilité d'aller voir mille et un spécialistes et d'assister à mille et une formations. Je veux dire, on note quand même avec les années que le niveau de français écrit baisse, que les jeunes lisent de moins en moins, qu'on est de moins en moins bon en mathématiques, que les élèves ne connaissent pas leur histoire, et j'exagère à peine. Donc, à un moment donné, ça passe aussi par le temps qu'on consacre à chacun de ces sujets-là aussi. Moins de temps, moins de connaissances. Il me semble que la mathématique est simple.
Est-ce que tu penses ou tu pointes vraiment les chaumières? Donc, qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Tu te poses la question. Est-ce qu'on a fait des choses tellement différentes là pour en arriver à en avoir autant de besoins dans les écoles? Qui pour toi a peut-être provoqué tout ça?
Non, moi, au contraire, je pense que les parents sont encore capables de faire leur travail. J'ai beaucoup de difficultés quand l'État se mêle de ce qui regarde les parents. Hein, quand on disait, par exemple, ah, peut-être qu'il va falloir contrôler le temps d'écran à la maison. Regardez, là, je suis pas mal sûr que les jeunes passent trop de temps d'écran à la maison, mais c'est aux parents de gérer ça, d'accord? J'étais par contre à l'aise quand il était question du temps d'écran à l'école. Moi, je suis bien d'accord qu'il ne faut pas qu'il y ait de cellulaire dans les écoles. Mais à un moment donné, non, c'est juste qu'on a des. Je ne sais pas, on a une nouvelle mentalité au ministère de l'Éducation. Les gens ne veulent pas se contenter du mandat qui est le leur. Donc, c'est peut-être par ennui. On se dit, oh, bon, on va s'attribuer une mission providentielle qui consiste à rentrer dans la vie des jeunes et dans leur cœur, et pas juste dans leur tête. Mais ça, ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Puis, je répète, moi, tu sais, regardez, là, en ce moment, il y a des gens qui se demandent pourquoi les jeunes sont en relâche. Les vacances de Noël, c'était il y a 2 mois, là. Pourquoi ils ont besoin d'une relâche pour ou contre la relâche? C'est un autre sujet. Mais s'ils ont une relâche, puis ensuite ils reviennent à l'école, puis c'est un après-midi de formation, puis là le vendredi, c'est ah, oh, on reçoit tel organisme. Hey, à un moment donné, il y en a-tu de l'école? Parce que
Non,
vous
en
savez qu'il y a
effet.
moins de jours d'école au Québec que partout ailleurs au Canada, là.
Mais tu as entièrement raison et je termine là-dessus, Rémi, puis je veux t'entendre. Pendant ce temps-là, justement, on arrive avec les examens de français au cégep et il y a de plus en plus de gens qui échouent leur examen de fin d'études collégiales et qui ne peuvent pas faire le bon à l'université. Puis là, on parle d'étudiants bien qualifiés, là, parce qu'ils ont réussi leur cégep.
Oui, tout à fait. En passant, cette chronique-là, elle n'aurait pas lieu d'être si tout allait bien dans les écoles et que l'état des lieux était irréprochable. Moi, je pars du principe que, comme tu viens de le dire, ça ne va pas super bien en français. C'est quand même une langue en péril en Amérique. Ce serait bien de la maîtriser et pas juste de se contenter de dire qu'il faut la protéger. Quand tu es bon en français, tu as l'air plus convaincant quand tu dis aux immigrants après d'adopter cette loi-là. Non, mais tu sais,
Mais
c'est
oui.
peut-être juste stratégiquement plus brillant de faire
J'adore.
ça. Voilà.
Rémi Villemur, c'est toujours un bonheur de te parler. Tu as toujours le commentaire choc et pertinent, puis tu nous amènes des sujets de réflexion comme celui-ci sur notre système d'éducation très pertinent. On se parle jeudi. Ben moi, je suis en congé jeudi, donc je vais parler avec Pascal et Mathias jeudi. Sinon, si vous passez dans le coin de Montréal, ben n'hésitez jamais. 99.5 Montréal, Rémi Villemurier, du lundi au jeudi, de 18h à 19h et les samedis matin de 8h à 10h. Salut mon chum, on se parle la semaine prochaine.
Jeff,
salut.
Salut. Salut. Rémi Villemur, toujours un intervenant très pertinent pour nous. Courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on revient avec quelques manchettes et on va parler avec Alicia Despins. Ben oui, la ville de Lévis a déjà dépensé 52 000 $ en frais d'avocat. Ça va s'arrêter où, cette poursuite, en raison du moratoire Le Houlier? On en parle avec Alicia Despins à l'émission On en jase sur Boulevard 101. On en jase, ton émission du midi à Boulevard 102.1. Pascal, dis-moi donc, comment qu'elle disait ça dans Geneviève Guilbeault? Je n'ai pas de souvenir expérientiel de...
Dans ma mémoire.
Ouais. Il y en a un autre qui a été pris par le même virus. Bill Clinton, l'ancien président américain.
Et pourtant, des vidéos de témoignages des Clinton qui concernent Epstein ont été publiées par une commission de la Chambre des représentants, donc CBC News qui nous indique le tout. La commission de surveillance de la Chambre des représentants qui est allée de l'avant avec des enregistrements, des dépositions de la semaine dernière de l'ancien président Bill Clinton et de l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. C'est un dossier qu'on suit assurément, là, tout ce qui se passe aux États-Unis avec les témoignages publics en frais sur les agissements de Jeffrey Epstein. Bill Clinton qui assure toujours n'avoir rien à se reprocher et on demande toujours à ce que Donald Trump ait témoigné. Sinon, il y a quelque chose qui est arrivé dans l'actualité et c'est absolument troublant. Tragédie sur une butte à Chambly. L'enfant de 6 ans qui est décédé sous les yeux de ses parents, c'est ce qu'on dit. Il y a un témoin qui raconte le chaos des dernières heures du drame. Donc, c'est encore dans l'actualité aujourd'hui. On en reparle. Il y avait des enfants qui pleuraient et tout ça. On décrit la scène en Montérégie de façon totalement tragique. Et ce qu'on donne comme information, c'est que la petite victime aurait glissé sur la portion de la butte qui était un peu utilisée pour grimper là, à pied au sommet. Puis on ne sait pas trop si la manœuvre était accidentelle. Ça, c'est particulier à lire, mais c'était glacé. Ça va peut-être amener le débat des buttes de neige dans les écoles de l'Avent. Action collective contre le Mont-Sainte-Anne, ça vient de tomber. Le tribunal va entériner l'entente de 5,1 million $. C'est un pas de plus qui est franchi pour les victimes de les arrêts brusques des télécabines du Mont-Sainte-Anne. C'était à l'hiver 2020. C'est un juge qui a annoncé qu'on allait entériner donc totalement, entièrement, intégralement, l'entente de 5,1 millions de dollars. Et ça, c'était dans le cadre de deux actions collectives intentées contre la station de ski.
On va immédiatement rejoindre Alicia Despins, notre chroniqueuse politique municipale et ancienne conseillère municipale pour le district de Vanier-du-Berger. Alicia, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Alicia, là, je veux comprendre. Pourquoi la ville de Lévis fait affaire à des avocats externes qui leur coûtent la peau des fesses, et alors qu'on a un service juridique dans toutes les municipalités?
Bien, effectivement, je pense que c'est très parlant. Et en même temps, les avocats, c'est ça que ça coûte. Là, on parle de 52 000 $ à ce jour en frais d'avocat avec deux firmes différentes là, pour gérer ces poursuites-là. Moi, ce que ça me dit, c'est que ça montre que c'est un vrai gros dossier. Donc, clairement, la ville de Lévis a estimé que les avocats, son service juridique, ne suffisait pas à la tâche là, pour préparer la défense de ce dossier-là. Alors, pour moi, c'est aussi simple que ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de préparation. Il y a probablement aussi une question d'expertise, de spécialité. Là, on parle d'avocats qui sont vraiment spécialisés en droit, non seulement en droit municipal, mais en droit de la construction. Alors, d'aller chercher là, cette expertise-là, ben, c'est le prix qui vient avec.
On dit toujours que le meilleur résultat dans un procès est le résultat qu'on va avoir négocié avant de passer devant le juge. T'attends-tu à ce qu'on développe cette stratégie-là du côté de Lévis? Parce que sinon, on pourrait avoir pas mal d'informations privilégiées qui soient obligées de sortir dans les médias. Puis ça fera peut-être pas belle figure pour l'administration de la ville de Lévis, qui est encore en place, là, le DG y compris.
Effectivement, je m'imagine que ça va être la première stratégie. Je pense pas là, que personne a envie d'aller en cours et de prolonger ce sujet-là là, pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. On le sait, ça peut être long, ces procédures judiciaires-là. En même temps, je suis persuadée que c'est un enjeu dont on va entendre parler encore pendant un bon bout, peu importe si ça se règle à l'amiable ou non, ou si ça se poursuit en cours, parce que on va en parler sous plusieurs aspects. Donc là, le 11 mars, le maire Stephen Blaney a annoncé qu'il allait dévoiler son plan pour lever le moratoire, donner de la prévisibilité aux promoteurs. Ça, on se rappelle que c'était une promesse électorale. Après ça, on va continuer de parler de la suite de cette poursuite-là qui totalise 31,3 millions de dollars. Mais on va aussi parler à travers tout ça du projet de réfection de l'usine d'épuration des eaux de Saint-Nicolas. Ça, on parle de 75 millions de dollars. Puis, de manière plus large, on va aussi parler des 200 millions de dollars sur 5 ans pour moderniser toutes les infrastructures de traitement des eaux usées à Lévis. Fait que ça fait pas mal de stock. Moi, je pense que ça va prendre une grande place là, dans le mandat du nouveau maire Blaney d'ici l'élection de 2029. Puis, je veux juste rappeler, parce que c'est important de souligner que Stephen Blaney, il a hérité de ce dossier-là. Ce n'est pas ses décisions à lui. Il fait avec. Alors, tu fais bien de rappeler que c'est du côté administratif. C'est ces gens-là qui étaient derrière ces décisions-là avec l'ancien maire Gilles Laulier. Donc, il y a Stephen Blaney qui essaye un peu de rattraper les affaires puis de se débrouiller, de respecter, de protéger son administration publique à travers tout ça. Mais ça risque d'être une patate chaude là, dans les prochains mois.
Est-ce que ça lui permet d'avancer d'autres enjeux puis de vraiment, je vais utiliser le terme, régner sur la ville de Lévis comme il aurait cru, il aurait pu? Il peut-tu regretter un peu son choix actuellement parce que finalement, son mandat, il est totalement amené ailleurs?
Bien, c'est sûr que c'était des enjeux qui n'étaient pas complètement inconnus. Là. On avait déjà parlé, donc j'ose croire là, qu'il savait dans quoi il s'embarquait. Maintenant, est-ce qu'il pensait que ça allait prendre une aussi grande place? Peut-être pas. Puis c'est sûr et certain, je veux dire, les élus, c'est des êtres humains. Les gens dans l'administration, c'est des êtres humains. Le nombre d'heures dans une journée sont comptées, l'énergie également. Donc, c'est sûr que tout le temps qu'il passe là-dessus, il ne passe pas nécessairement sur les projets qu'il voulait, qu'il souhaitait développer. Alors ça, évidemment, ça peut être dommage. Là. Ça se peut qu'à la fin du mandat, peut-être qu'aujourd'hui, il dirait « je ne regrette pas, non, il n'y a pas de problème, je savais dans quoi je m'embarquais », mais ça se peut que dans 4 ans, à la fin de son mandat, il se dise « ben, à cause de ça, je n'ai pas pu réaliser autant de choses que je l'aurais souhaité ». Ça se peut qu'on entende ça dans 4 ans.
Pour rappel, on parle avec Alicia Despins, qui est notre chroniqueuse en politique municipale. Alicia, tu as côtoyé Jackie Smith à l'Hôtel de Ville de Québec. Un mot sur son départ. Qu'est-ce que tu retiens du passage de Jackie Smith en politique municipale à Québec?
Oui, Jackie Smith, qui a été ma voisine de conseil de ville là, pendant plusieurs années, donc en 2021-2025, qui passe le flambeau. Je pense que c'est normal. Je pense que c'est sain. Elle aura fait quand même 7 ans là, comme chef de Transition Québec. Moi, je ne suis pas surprise de cette décision-là. À la fois de son côté en termes d'énergie, de temps à consacrer à son parti politique, mais aussi parce que quand on subit une défaite électorale, je pense que c'est une question à se poser et peut-être là, que c'était le temps là, justement de laisser sa place. Jackie Smith, pour moi, c'est un bon exemple de son passage en politique municipale, là, un bon exemple de quelqu'un qui est motivé par quelque chose de plus grand qu'elle. Je ne pense pas que la flamme, elle est éteinte de son côté. Là. Fait que je pense qu'on risque de la revoir éventuellement, peut-être pas tout de suite, on va lui laisser quelques années, mais on risque de revoir Jackie Smith, puis je pense que ça va être aussi intéressant là, de suivre ce qui va se passer du côté de Transition Québec avec ce changement-là.
Est-ce qu'on peut survivre Transition Québec? Est-ce qu'ils peuvent survivre Transition Québec à cette défaite électorale-là où ils n'ont aucun conseiller présentement à l'Hôtel de Ville?
Bien, c'est très difficile. Donc, ils ont plusieurs défis devant eux. Ils ont le défi d'être présents dans l'actualité, d'attirer l'attention malgré justement cette absence-là au conseil municipal. Mais, avant chaque conseil de ville, les partis d'opposition, traditionnellement, font un point de presse. Donc, ils font connaître leur dossier, ils font connaître leur prise de position. Ils ont des prises de parole aussi pendant le conseil de ville. Donc, toutes ces opportunités de visibilité-là ne sont plus disponibles pour Transition Québec. Et je pense que dans leurs autres défis, mais il y a le fait qu'avec une opposition qui est plus à droite que le maire actuellement, ça se peut que ce soit plus difficile d'établir un contraste avec Bruno Marchand pour ce parti de gauche-là. Puis finalement, bien, il y a une question là, de course à la chefferie. Donc, il y a toujours deux stratégies dans un scénario comme celui-là. soit tu fais ça le plus rapidement possible pour donner du temps à la nouvelle chef ou nouveau chef de se faire connaître, s'approprier les dossiers, ou tu fais ça le plus tard possible, le plus proche possible de l'élection pour profiter d'un momentum médiatique. Et moi, ce que je vois de Transition Québec, c'est qu'ils ont opté pour un genre de scénario mitoyen où ils vont vouloir se donner le temps d'organiser la course, j'imagine attirer les meilleures candidatures possibles, puis donner le temps à la nouvelle personne de se faire connaître entre sa nomination en 2027 et l'élection générale de 2029. Donc, beaucoup de défis en perspective pour Transition Québec.
Alicia Despins, on se reparle mercredi prochain après le conseil municipal, puis on se parle en personne dans la semaine du 16 mars. On va t'accueillir en studio, on va être très heureux.
Merci, bonne journée.
Salut, bonne journée. Alicia Despins qui peut entendre sur nos ondes une fois par semaine à l'émission On en jase. C'est une excellente chroniqueuse en politique municipale. Pascal, t'es-tu énervé?
Pourquoi?
Canadien joue ce soir contre les Sharks
sérieux,
de San Jose.
Sérieux, je vais arrêter de me faire prendre un moment donné à chaque fois quand tu me dis ça.
Canadien contre les Sharks ce soir. Date limite des transactions vendredi dans la Ligue nationale. On se fait un petit intermède de sport dans un instant. Boulevard 102 à l'émission On en jase. Évidemment, après l'émission On en jase, ton émission qui résume parfaitement ton actualité sur l'heure du midi, qui l'analyse, les grands enjeux politiques provinciales, fédérales, internationales, mais surtout les dossiers locaux, comme celui qu'on vient de parler avec Alicia Despins, c'est-à-dire ces coûts faramineux d'avocats à Lévis pour la poursuite en raison du moratoire. Ça va se retrouver d'ailleurs sur le blvd.fm. Immédiatement après l'émission. À la météo, je vous rappelle, c'est une superbe journée. Moins 1 degré. Demain, ce sera 3 degrés, 30% de possibilité de pluie ou de neige. Moins 7 pour jeudi et moins 3 pour vendredi. Avant de parler sport, cher Pascal, il y a du développement dans le cas des agressions sexuelles à l'orphelinat du Mont-Diouville.
Ouais, rien de très joyeux à dire, mais c'est un dossier qui est sorti dans les dernières minutes. Il y a un autre éducateur qui est coupable de crimes sexuels. Il dit « J'ai prouvé que justice existe. C'est ce que la victime de Rénal Hamel a dit au palais de justice. » Et il s'est félicité de ça. Hein. Reconnu coupable pour Rénal Hamel d'attentat à la pudeur sur un garçon dans les années 70. Donc, c'est un ancien éducateur du Mont-Diouville. Et ça s'est passé dans les années 70. C'est vraiment un gros gain pour la victime Roch Drolet. Et condamné au criminel, un deuxième agresseur dans le cas du Mont-Diouville. C'est pas terminé, je pense, comme dossier. Des fois, ça sort au compte-gouttes, hein, puis des fois, après qu'il y a eu une victime ou deux ou autre, ben on commence justement à délier des langues. Mais Roch Drolet avait été admis dans l'établissement à l'âge de 8 ans, puis dans un témoignage au procès, un témoignage assez difficile qu'il a réussi à faire entendre sa version et qui a dit qu'il s'est senti comme un jouet pour son éducateur. Puis même, il ramène à certaines scènes qu'il n'oubliera jamais sa respiration. Fait que tu vois là qu'il est vraiment traumatisé de ces événements-là.
Ces semaines de relâche, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la circulation? Parce qu'on le sait, il y a plus de trafic qu'à la normale en ce beau mardi après-midi.
Pendant toute l'émission, il y a eu des petites choses ici et là. Sur Dufresne-Montmorency, cette fois-ci, c'est direction est au début de la sortie vers l'autoroute Félix-Leclerc-Ouest. La voie droite est partiellement entravée. Il y a un véhicule lourd en panne.
Au sport, le Canadien affronte l'excellent Macklin Celebrini. Si vous ne le connaissiez pas, vous l'avez découvert aux Jeux olympiques. Le numéro 19 de 19 ans qui patrouillait un trio avec Connor McDavid et Nathan MacKinnon. 83 points déjà cette saison. Le Canadien visite les Sharks. C'est à 22h ce soir sur les ondes d'RDS. D'autres matchs intéressants dans la Ligue nationale. 19h, les Penguins contre les Bruins. Ça a de l'incidence sur la course aux séries dans l'Est. Même principe pour les Golden Knights de Vegas qui vont visiter les Sabres à Buffalo. Et un excellent match aussi à surveiller à 21h alors que les Sénateurs d'Ottawa vont visiter les Oilers d'Edmonton de Connor McDavid qui a 103 points depuis le début de la saison. Gravel dans le retour, suit à l'instant même. On le rappelle, Denis est en vacances. C'est Antonine Iacarini avec Véro Bergeron et Audrey Pinchot. 16h30, manquez pas ce rendez-vous. Roger Ferland, où on va faire un dossier complet sur les prédateurs sexuels en ligne. Donc, vous voulez prévenir ceci auprès de vos enfants? La meilleure place pour avoir les bons conseils de Roger, c'est à Boulevard 102.1 dans l'émission Gravel dans le retour. Pascal Cévé, toujours un bonheur de faire de la radio avec toi.
Puis on renouvelle ça demain sans faute.
Exactement. Demain midi pour l'émission d'Angers. Bye bye, guys. Bon après-midi.
Bye.